dans quelques jours, une retraite bien méritée. Donc, je voudrais publiquement saluer le travail qu'elle a accompli avec l'ensemble de l'équipe de l'administration générale. Et je vous propose de l'applaudir. Avant de passer au point le plus important du Conseil, à savoir l'examen du compte administratif, il nous faut examiner les comptes de gestion du receveur municipal. Alors, le compte de gestion, quelle différence y a-t-il entre le compte de gestion du receveur et le compte administratif? Normalement, il n'y en a pas au niveau des chiffres, puisqu'au centime près, on doit retrouver les mêmes sommes. Simplement, le compte de gestion du receveur, il est établi par le trésorier, enfin, le comptable, alors que le maire est l'ordonnateur. Et donc, ce compte de gestion reflète les opérations comptables qui ont été réalisées dans le cadre de l'exercice 2019 par le receveur municipal, et nous examinerons à partir du rapport numéro 8 les comptes administratifs qui, eux, sont les comptes administratifs qui reflètent la gestion municipale. Alors, on a une rigoureuse identité sur le plan financier, mais évidemment, ce sont les choix politiques que nous avons effectués pour le compte du compte administratif qui sont retracés de la manière comptable dans le cadre du compte de gestion. Je vous propose donc d'approuver les comptes de gestion ville et budget annexe du receveur principal pour l'exercice 2019, détaillés dans le rapport en votre possession. Pour les comptes de gestion du receveur de la ville, qui est contre? Qui s'abstient? Vous ne prenez pas part au vote? Sur le compte de gestion ou sur le compte administratif? Parce que le vrai débat entre nous, il porte sur le compte administratif. Ça, c'est le rapport du comptable public. Ben, je préfère qu'on le fasse à ce moment-là au compte administratif. Est-ce que sur le vote du compte de gestion, il y a donc deux ne prennent pas part au vote? Est-ce qu'il y a d'autres des votes contre? Des abstentions? Les rapports 2 à 7 sont donc adoptés. Nous arrivons donc directement au rapport 8. Conformément aux dispositions contenues dans le Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur les comptes administratifs qui lui sont annuellement présentés par le maire. À cet effet, je vous propose de passer à l'étude des comptes de l'exercice 2009 et vous invite à bien vouloir élire un président de séance. En effet, si le maire peut présenter les comptes et répondre aux questions des conseils municipaux, il ne peut être président au moment de cet examen. Je vous propose donc la candidature de Pierre Marandon, doyen de notre assemblée. Et je vous propose de mettre aux voix cette désignation. Pas d'opposition, pas d'abstention.
Il n'y a pas de plus ancien.
Je passe donc la parole à Pierre Marandon.
Bien, merci, Monsieur le Maire. Mesdames, Messieurs, pour vous présenter les comptes administratifs de 2019, je vais passer la parole à Monsieur le Maire pour l'exposé introductif, puis à Madame Christine Mazzi pour une présentation synthétique accompagnée d'un diaporama. Monsieur le Maire, s'il vous plaît.
Merci Pierre. L'examen du compte administratif est une nouveauté pour une partie d'entre vous, même si vous avez déjà participé récemment à la présentation du compte administratif de l'agglomération. Pour rappel, le compte administratif retrace précisément la façon dont a exécuté le budget de l'année précédente, en l'occurrence l'année 2019. Il en rend compte à l'euro près aux élus du Conseil et à travers eux aux Sparnassiens. Pour résumer le compte administratif 2019 de la ville, je vais vous citer quelques chiffres significatifs. Christine Mazzi les précisera dans un exposé qui suivra mon propos liminaire. Elle les complétera évidemment avec d'autres données. En quatre indicateurs, le budget de la ville réalisé l'an dernier se caractérise par d'abord un excédent de 487 500 euros, ensuite par des dépenses d'équipement de notre commune pour un montant atteignant 18 058 000 d'euros, une pression fiscale stable. Je le rappelle pour la 14e année consécutive. Et dernier élément significatif, une dette sûre et une capacité de désendettement de la ville qui s'élève à 6,72 années. Ce dernier ratio est particulièrement significatif. Il permet en effet de connaître très précisément le niveau d'endettement d'une collectivité. En résumé, il traduit le temps qu'il serait nécessaire pour rembourser l'encours de la dette, c'est-à-dire le stock de la dette, si elle y consacrait toute sa capacité d'autofinancement. Je rappelle que le Code général des collectivités territoriales a récemment précisé que pour une commune de plus de 10 000 habitants, ce ratio devrait être inférieur à un plafond situé entre 11 et 13 ans. Donc, si vous reprenez les 6 années 72, on est assez sensiblement en dessous. Et si la situation l'exigeait, si nous devions conforter notre politique d'investissement, qui, tout en équipant notre commune, est aussi une façon de créer de l'activité économique pour les entreprises, nous avons là indéniablement une certaine marge de manœuvre. ce d'autant que nous bénéficions de taux historiquement bas. Ainsi, en 2019, la moyenne des taux des contrats de prêt constituant notre encours de dette était de 1,29%. Elle était encore de 1,63% en 2018. Et l'an passé, nous avons même emprunté auprès de la Banque Postale à un taux fixe de 0,32%. Donc, on a un contexte de taux bas qui, évidemment, nous permet d'investir sans difficulté. Mais cette marge de manœuvre ne pourrait être utilisée qu'à condition de maintenir nos efforts de maîtrise en matière de fonctionnement, car derrière ces chiffres positifs, il faut rappeler les contraintes qui ont continué de peser sur notre collectivité l'an dernier et les efforts de gestion qu'elle a fait. Je reviendrai aussi brièvement sur certaines de nos réalisations, traduction des choix politiques de l'équipe municipale que j'avais l'honneur de conduire et qui a été depuis en partie renouvelée. Tout d'abord, rappelons-le, ces résultats ont été atteints dans un environnement particulièrement contraint, pour notre ville comme pour l'ensemble des collectivités, évidemment. En effet, l'État a continué à ponctionner notre collectivité. Ainsi, notre contribution annuelle au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales a représenté une perte de recettes de 1,1 million d'euros. Il s'agit d'une ponction imaginée il y a quelques années par l'État dans le cadre d'une péréquation dite horizontale, c'est-à-dire au bénéfice d'autres collectivités. En d'autres termes, c'est une illustration du principe bien connu consistant à déshabiller Pierre, je ne fais pas référence au président de séance, pour habiller Paul. Par ailleurs, le montant des dotations versées par l'État à la ville a continué à diminuer, et il diminue encore. Ainsi, en 2019, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, reçue par notre commune, a baissé de l'ordre de 187 000 euros par rapport à 2018. Certes, la baisse est moins importante que les baisses que nous avions il y a 5 ou 6 ans, qui avaient été extrêmement importantes, mais néanmoins, la relation qui lie les collectivités locales à l'État reste une action qui pose problème dans la mesure où nous constatons en tout cas une baisse régulière des dotations globales de fonctionnement. À noter, notre dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a, elle, progressé une nouvelle fois, mais seulement de 33 324 euros, ce qui est loin de compenser la baisse de la DGF que j'évoquais à l'instant. Dans ce contexte, la collectivité a assuré un suivi étroit de ses dépenses de fonctionnement de manière à en garantir une parfaite maîtrise. Les charges de gestion courantes ont été contenues avec une réalisation à hauteur de 94%, comme les autres charges de gestion ou les charges de personnel réalisées chacune à 98%. Par ailleurs, l'an passé, certaines de nos recettes ont été plus importantes que prévues. Dans le domaine immobilier, signe d'un marché actif à Épernay, la taxe additionnelle aux droits de mutation a permis une recette supérieure au provisionnel de 126 000 euros. Enfin, des rôles complémentaires en matière fiscale se sont traduits par des recettes supplémentaires pour la collectivité de 86 000 euros. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiers de ce terme, les rôles complémentaires, ce sont en fait des examens, des enquêtes fiscales qui sont faites par les services de l'État qui permettent de réévaluer la valeur de certaines bases fiscales à l'occasion de contrôles fiscaux. Et donc, ça nous vaut, de temps à autre, des rôles, ce qu'on appelle des rôles complémentaires qui viennent évidemment grossir les recettes de la collectivité, en l'occurrence, un montant de 86 000 euros. Pour ce qui est des dépenses d'équipement de notre commune, elles ont représenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, un montant global de 18,58 millions d'euros en 2019. Ainsi, au cours du précédent mandat, ce sont près de 70 millions d'euros que notre collectivité a mobilisé en matière d'investissement, ce qui représente une dépense annuelle moyenne de près de 11,6 millions d'euros en investissement. Je ne reviendrai pas en détail sur ces réalisations, nous en avons rendu compte devant les Sparnassiens lors de la dernière campagne électorale. Christine Mazzi rappellera simplement dans son exposé les principales opérations menées à bien sur l'exercice 2019. Pour ma part, je mentionnerai rapidement les plus importantes en termes financiers. Tout d'abord, évidemment, le futur musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Sur l'année 2019, il a représenté la somme particulièrement importante de 12,4 millions d'euros, impacté par la présence de plomb dans certaines parties du château Perrier, puis plus récemment par le confinement. Ce chantier est maintenant en voie d'achèvement. Le musée devrait donc ouvrir à l'automne prochain. Autre équipement culturel important, le cinéma Le Palace, qui a bénéficié pour sa rénovation d'une aide globale de la ville de 400 000 euros. Je rappelle que la région avait également financé ce projet à hauteur de 400 000 euros et le département à hauteur de 200 000 euros. Sur l'exercice 2019, la subvention municipale a représenté un montant de 200 000 euros. Le budget 2019 a également permis de financer les travaux de voirie à hauteur de 2 millions d'euros, le principal chantier ayant été l'achèvement du réaménagement de l'avenue Jean Jaurès en lien avec le département. Il a permis ainsi la requalification complète de l'entrée ouest d'Épernay. L'an passé, outre les interventions ponctuelles dans différents quartiers de la commune, ont également été rénovées la rue du Docteur Roux et l'un des ponts sur le Cubry situé avenue Paul Bert. En matière d'aménagement urbain, deux secteurs ont été particulièrement concernés, une nouvelle fois par des actions de la collectivité. Il s'agit d'abord du quartier Rosemont, qui évolue de jour en jour. Si vous allez vous promener du côté du quartier Rosemont, vous pourrez le constater. Ce quartier continue de sortir de terre et l'aménagement de l'espace public est assuré par notre collectivité pour un coût de 311 000 euros en 2019. Dans un cadre naturel, est ainsi construit progressivement un quartier d'habitat social performant en matière de développement durable et en particulier en matière de sobriété énergétique. Parallèlement, les études concernant le devenir des anciens ateliers SNCF se sont poursuivies. Notre objectif est, vous le savez, de reconvertir cette friche en un secteur offrant des fonctionnalités d'un véritable quartier interconnecté avec le centre-ville grâce à une passerelle interquartier. L'enjeu de ce futur quartier Bergemin est aussi d'en faire un lieu de vie renouant tout à la fois avec l'environnement naturel qui l'entoure et prenant en compte les avancées de l'urbanisme du XXIe siècle. L'année 2019 a été d'ailleurs l'occasion d'intégrer les conclusions de la concertation menée par les Sparnassiens pour définir leurs attentes concernant ce quartier. L'ensemble de ce travail, études et concertations, a représenté une somme de 423 000 euros sur le budget 2019. L'an dernier a permis d'amorcer la deuxième phase de la coulée verte, projet structurant contribuant à la connexion à terme du quartier Berge de Marne avec le secteur de Pierry en suivant le cours du Cubri. Cette deuxième tranche, pour un montant de 420 000 euros, reliant le jardin de l'horticulture à l'avenue Paul Bert, comprend la réalisation d'une aire d'accueil de camping-car qui sera livrée à l'automne prochain. Dans un tout autre domaine, l'an passé a également vu la livraison de la résidence Galice, qui représentait 140 000 euros sur l'exercice, et la poursuite des travaux annuels de rénovation de la résidence Le Cèdre pour un montant de 120 000 euros. Dans le premier cas, la résidence Galice, la nouvelle résidence qui se situe au coin du marché, qui accueille un certain nombre de personnes âgées, et la résidence du Cèdre est une plus ancienne résidence qui fait l'objet de travaux régulièrement dans les différents appartements. Enfin, en matière sportive, il s'agit en l'occurrence de dépenses de fonctionnement. L'année 2019 a été aussi celle, je vous le rappelle, de l'accueil à Épernay du Tour de France, à l'occasion d'une étape devenue mythique, car elle voyait un Français revêtir pour la première fois depuis longtemps le maillot jaune. La Grande Boucle a contribué efficacement à la promotion d'Épernay et des paysages du Champagne qui l'entourent. Pour en revenir aux investissements dont j'ai cité une partie au cours de mon intervention, ils ont été réalisés en continuant de garantir la sécurité de notre dette, tant par la nature des emprunts qui la composent que du montant de son encours global. Au 31 décembre 2019, notre encours de dette mobilisé s'élevait à 34,5 millions d'euros. D'un point de vue comptable, il faut également prendre en compte les investissements reportés ayant donné lieu à des autorisations de crédit qui, pour partie, n'ont été mobilisés qu'en 2020. Christine Mazier reviendra dans un instant. Grâce à l'expertise des services, notre gestion de la dette est à la fois réactive et prudente. Cette gestion s'est aussi traduite par un niveau encore en baisse de nos charges financières. Elles ont été de 420 000 euros l'an dernier contre 490 000 euros l'année précédente. Pour revenir à l'excédent du budget 2019, je vous rappelle que celui-ci s'élève à 487 500 euros. Après adoption du compte administratif que nous sommes en train d'examiner, je vous proposerai d'affecter ce solde au budget de l'année 2020. Plutôt que de provisionner dès à présent telle ou telle opération et au vu du contexte particulier de crise que nous vivons, ce solde a vocation à intégrer un budget supplémentaire que nous examinerons lors du prochain conseil municipal en septembre. Je vais maintenant laisser la parole à Christine Mazy, adjointe chargée entre autres domaine des finances. Elle va compléter mon intervention par la présentation toujours éclairante de divers graphiques sous forme d'un exposé synthétique. Mais permettez-moi, pour finir, de saluer chaleureusement les élus en fonction l'an dernier, ainsi que l'administration municipale, en particulier les services des finances, pour la qualité de leur travail que souligne une fois de plus ce compte administratif. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Christine Mazy.
Merci, Monsieur le maire. Donc, nous allons vous projeter un diaporama qui va nous permettre de...
On est plutôt en vacances.
Pour l'instant. C'est pour demain.
Ah, j'ai oublié de présenter les excuses de Benoît Moitier qui arrivera en cours de séance et qui est pour l'instant représenté par Christine Mazy. Nathalie Houssac qui est représentée par Abida Sharif. Je crois qu'elle est en conseil d'école ce soir.
Donc voilà. Donc avant de démarrer la présentation du compagnie. administratif, nous avons tenu à remettre une petite diapo pour bien visualiser le cycle budgétaire sur une année, et là, en l'occurrence, sur deux années, puisque quand on parle de compte administratif, vous voyez qu'il est à cheval sur deux années civiles. Donc, une année se compose toujours par le débat d'orientation budgétaire, le budget primitif. Ensuite, interviennent un certain nombre de décisions modificatives et le budget supplémentaire. Et puis, on recommence chaque année. Et vous voyez donc que le compte administratif, par exemple, là, en l'occurrence pour 2019, est bien évidemment examiné une fois que l'année est terminée. Donc, il va générer un résultat et ce résultat, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, va être réaffecté par le biais du budget supplémentaire qui sera voté lors du prochain conseil municipal de septembre. Voilà. Alors, en ce qui concerne le compte administratif 2019, donc, ce compte administratif indique, comme ça a été précisé dans le préambule, que le résultat après reste à réaliser est excédentaire d'un peu plus de 487 000 euros. Donc, comment obtient-on ce résultat? C'est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses. Donc, les dépenses qui figurent sur la colonne de gauche et les recettes qui figurent sur la colonne de droite. Donc, ce résultat, ce différentiel, il résulte en fait d'un déficit d'investissement de 2,4 millions, hein, j'arrondis, de 2,4 millions, et d'un déficit d'investissement après reste à réaliser de 2 millions. Donc, les prévisions budgétaires étant équilibrées en dépenses et en recettes, le résultat d'exécution découle des écarts entre les prévisions et leur réalisation. L'administratif va nous permettre de voir comment ont été réalisées les dépenses et les recettes. En ce qui concerne les dépenses, bien évidemment, l'exécution ne peut être qu'inférieure aux prévisions. Elle va donc générer un excédent. Au compte administratif 2019, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, 1,3 million de crédits n'ont pas été consommés en 1,8 million en recettes. Donc, sont mentionnées dans le graphique les écritures d'ordre que l'on trouve en gris, hein, qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie. Pour simplifier les choses, je dirais qu'il s'agit notamment des investissements. Donc, en ce qui concerne l'analyse que nous allons voir par la suite, cette analyse ne va porter que sur les écritures réelles. C'est-à-dire... Donc, si nous commençons par la section de fonctionnement, donc, tout d'abord, commençons par les recettes. Donc, ce graphique présente les différents postes de recettes qui sont répartis par chapitre comptable. Donc, systématiquement, vous avez et puis l'intitulé. Donc, en orange, nous avons représenté les volumes 2018, de façon à pouvoir comparer. En vert foncé, donc, ce sont les valeurs qui avaient été établies au budget. Et en 2019, ce qui a été réalisé, les volumes réalisés. En 2019, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 44,3 millions d'euros, contre 43,7 en 2018. Variation de 0,7%. Donc, nous voyons au niveau des recettes que la principale ressource sont bien évidemment les taxes, hein, le chapitre 73, qui représente 70% de recettes de fonctionnement. Ensuite, ce sont les dotations et participations, le chapitre 74, et les autres recettes de la collectivité, les autres produits de gestion, les ventes de produits fabriqués, les prestations. Les produits exceptionnels, un petit peu, alors ça peut paraître bizarre d'avoir dans les recettes des charges personnelles, c'est tout simplement des remboursements lorsqu'il y a des arrêts maladie. Alors, en ce qui concerne les impôts et taxes, puisque ça représente 70% de nos recettes, donc un petit focus sur les impôts et taxes. Donc, en haut à gauche, sur le camembert, ce sont les répartitions des impôts et taxes par nature de recettes. Donc, nous avons la fiscalité pour 66%. Ensuite, par ordre, les attributions de compensation. Alors, les attributions de compensation, ce sont les recettes qui sont apparues en 2017 lorsqu'il y a eu... l'agglo. En fait, les attributions de compensation correspondent à des compensations, comme leur nom l'indique, versées par la communauté d'agglomération, puisque lorsqu'il y a un transfert de compétences, l'agglomération a récupéré toute la fiscalité économique de la ville sans avoir les charges en contrepartie. Donc, évidemment, pour compenser cette perte de recettes économiques de la ville, l'agglomération nous reverse le montant pour compenser.
Je précise que, évidemment, ça a été fait pour toutes les communes de la communauté, puisque toutes ont perdu la fiscalité professionnelle partie à l'agglomération, en contrepartie de quoi elles ont été remboursées de la somme qu'elles avaient l'année précédente. C'est ça, les attributions de compensation. Et à chaque fois qu'on aura des transferts de compétences dans un sens ou dans l'autre, on aura toujours en contrepartie une attribution de compensation de reverser aux communes ou à l'agglomération selon le sens du transfert de compétences.
Je me rapproche, apparemment, on m'entend mal. Donc, le chapitre relatif aux impôts est excédentaire par rapport aux prévisionnels, puisque nous avons eu, comme l'a indiqué M. le maire tout à l'heure, des rôles supplémentaires à hauteur de 86 000 euros. Une taxe additionnelle aux droits de mutation qui nous indique que le marché immobilier sur Épernay porte bien, donc 126 000 euros de recettes supplémentaires. Voilà. Et en ce qui concerne les impôts et taxes pour le compte administratif. Donc là, cette fois, en ce qui concerne les dotations et les participations, donc nous avons voulu par cette diapo montrer l'évolution des dotations depuis 2014. Donc, en bleu, ce sont la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement et la dotation de solidarité urbaine. En rouge, ce sont les compensations fiscales envers les autres participations. Et puis, en pointillé, nous avons voulu indiquer ce qu'aurait été la DGF et la DSU s'il n'y avait pas eu fusion avec l'agglo. Et bien évidemment, donc cette part, la différence entre les deux courbes bleu clair, donc la courbe en plein et la courbe en pointillé, est compensée par l'agglo, par ces fameuses attributions, par une partie de ces attributions de compensation. Simplement, on peut remarquer qu'effectivement, nos dotations. Alors, après les recettes, nous allons passer aux dépenses. Donc, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles s'élèvent à 38,6 millions d'euros. Elles augmentent de 4,62% par rapport à 2018. Donc, simplement à noter qu'en 2018, les écritures de valorisation des équipements sportifs n'avaient pas été comptabilisées, donc cette petite différence, puisque à périmètre constant, si nous n'avions pas tenu compte de cette valorisation des équipements sportifs, la variation était de 1,33. Donc, les principales dépenses, comme vous le voyez par le graphique du bas, donc toujours le même principe, hein. En orange, les valeurs 2018, en vert foncé, le budget, et en vert clair, les réalisations. Donc, les charges de personnel, qui représentent la plus grosse partie, puisqu'elles représentent 50% des dépenses réelles de fonctionnement. Viennent ensuite les charges de gestion, donc toutes les charges qui font fonctionner notre collectivité. Les autres charges de gestion, là aussi, un peu en augmentation. Les charges financières, donc ce sont les intérêts de la dette, des charges exceptionnelles, et puis le fonds de péréquation, dont le FPIC, est une recette en moins donc, que l'on indique en dépenses. Donc globalement, les dépenses réelles de fonctionnement ont été exécutées à 97%. Cela veut dire que les prévisions budgétaires ont été exécutées à 97%. Donc, le budget a été très bien établi. Alors, un petit focus sur les effectifs, puisque c'est la moitié de nos dépenses de fonctionnement. Donc, il est important de faire un petit focus sur les effectifs. Donc, là sont indiquées les valeurs en équivalent temps plein. Donc, ça ne représente pas le nombre d'agents. Ce sont bien des équivalents temps plein. Donc, au 31 décembre 2019, 421,52 équivalents temps plein. Donc, 422 équivalents temps plein. Donc, nous avons 6 postes permanents en plus par rapport à 2019. Donc, on remarque, puisque nous avons voulu noter, d'une part, la représentativité des différentes catégories, donc des agents. La catégorie C, ce qui représente la majeure partie de nos effectifs. La catégorie B et la catégorie A. Donc, ça, ce sont les cônes qui se présentent en bas à gauche de la diapo. Et puis, sur les diagrammes ou les rectangles qui figurent à droite, nous avons indiqué la répartition des effectifs par rapport aux différentes filières. Là, nous remarquons que c'est la filière technique qui concentre le plus d'agents. Bien ensuite la filière administrative, sociale, l'animation, la filière culturelle, la police. Et puis ensuite, les trois petits derniers sur lesquels nous n'avons pas pu inscrire, il y a de mémoire les sports, la filière socio-culturelle et puis les postes de direction. Alors, les budgets annexes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons également des budgets annexes que sont donc les cellules commerciales de Bernon, les cellules commerciales de Saint-Thibault, le budget du chauffage urbain, des parkings et le camping. Donc, en ce qui concerne notamment le chauffage urbain, puisque c'est celui qui est en volume et le plus important, le chauffage urbain est en baisse de 6% par rapport à 2018. Cela s'explique par une baisse de la consommation et un prix également qui a diminué. En ce qui concerne les parkings, nous avons là aussi une petite variation de moins 63 000 euros. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'en 2018, nous avions eu de grosses charges, notamment une prestation exceptionnelle, puisqu'il y avait eu des travaux au niveau du parking souterrain centre-ville par rapport à des modifications du marquage. Les autres budgets annexes, pas d'éléments à préciser.
Peut-être pour nos nouveaux collègues, les cellules commerciales de Bernon, en fait, la ville est propriétaire de deux petites cellules dans l'ancien linéaire commercial, en tout cas ce qu'il en reste, qui sont aujourd'hui inoccupées. Et je crois qu'un certain nombre de candidats ont postulé pour occuper ces cellules. Et la cellule commerciale de Saint-Thibault, elle devrait être, à mon sens, au singulier, parce qu'il n'y en a plus qu'une, qui est la cellule occupée par l'ancien Monop, qui va être occupée dans les semaines qui viennent par une entité Leclerc. Les travaux sont en cours, et je pense que c'est prévu pour la fin du mois, en tout cas début courant juillet au plus tard. Donc ce sont des cellules qui appartiennent à la ville et qui sont louées par la ville. Donc c'est pour ça qu'on verra à chaque budget, en tout cas tant qu'on sera propriétaire de ces cellules, un budget annexe cellule commerciale de Bernon d'un côté, cellule commerciale Saint-Thibault de l'autre.
Alors, après avoir traité la section de fonctionnement, nous allons voir la section d'investissement, donc là aussi pour la ville et ses annexes. Commençons par les dépenses. Donc, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, donc des dépenses d'équipement, donc nous avons indiqué, puisque nos dépenses se résument notamment aux dépenses d'équipement et puis aux emprunts et dettes. Donc, les dépenses réelles d'investissement sont constituées, donc pour l'essentiel, comme je disais, par les dépenses d'équipement, ce qui représente 83%, et le remboursement du capital de la dette, qui représente 16%. Donc, les dépenses d'équipement 2019 sont de 18,5 millions d'euros. C'est ce qui est représenté par le vert plus haut. Et nous avons indiqué par le vert plus clair le réalisé plus le report. Alors, ça veut dire quoi réalisé plus report? Ça veut dire que dans le report, ce sont des opérations qui ont été engagées, mais pour lesquelles le règlement n'a pas encore été effectué. Mais pour le cas, la dépense a été. Donc, le remboursement de la dette en capital varie, bien sûr, en fonction du profil de remboursement des emprunts. Et là, comme vous le voyez sur le graphique, la réalisation est parfaitement conforme à la prévision. En ce qui concerne cette fois les recettes réelles d'investissement, donc les recettes, ce sont les emprunts, des subventions, des dotations et des cessions. Donc là encore, en vert fluo, ce qui a été donc en vert foncé, on va peut-être commencer en vert foncé le budget, donc les prévisions, ce qui a été réalisé en vert fluo, et puis nous avons ajouté au réalisé les reports. Donc les recettes réelles d'investissement d'un montant de 20,5 millions d'euros, plus 9,8 millions d'euros de reports sont constitués donc d'une part par les emprunts, les subventions d'investissement. Donc nous avons touché 5,9 millions d'euros de subventions et 5,5 millions encore restent à réaliser. Donc ce sont notamment les aides qui sont liées pour le musée, la fin de l'ORU, l'opération de rénovation urbaine, ainsi que les amendes de police, puisqu'il y a eu un décalage de recettes de 2 ans. En ce qui concerne les dotations, ce sont des fonds divers et des réserves. On retrouve dans ce chapitre le fonds de compensation de la TVA, dont ce que l'on appelle le FCTVA, puisque la collectivité n'est pas considérée comme une entité assujettie à la TVA, et donc l'État reverse une compensation qui s'appelle le FCTVA par rapport aux investissements qui ont été faits. Les crédits de cession, eux, qui ne donnent pas lieu à réalisation, bien sûr, il y a dans cette prévision notamment le bâtiment qui se situait derrière, enfin qui se situe d'ailleurs toujours derrière l'ex-palais. Alors, les dépenses d'équipement de la ville et de ses annexes, là, cette fois hors report, donc ce qui a été vraiment engagé, et l'évolution depuis 2014. Donc, l'on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si l'on compare 2019 à 2018, on voit la volonté en 2019 d'avoir une politique d'investissement importante. Bien évidemment, dans cette forte augmentation de 2019, apparaît les dépenses. Donc, à noter tout de même que le financement de nos équipements pour l'année 2019 a été fait pour 32% par des subventions, par 45% par des emprunts et le reste, soit 23%, par de l'autofinancement. Rappel, en 2018, la ville n'avait pas contracté d'emprunt prévu puisqu'une partie de ses dépenses était en report, ainsi que le financement. Donc, un certain nombre de diapositives pour justement... Donc, vous reconnaissez tous Verrier, donc le futur musée. La subvention aussi qui a été place. Les travaux de voirie avec notamment l'aménagement de l'avenue Jean Jaurès. L'avenue Paulbert et le pont sur le Cubry. Le chantier des berges de Marne. L'aménagement de l'écoquartier Rosemont qui se poursuit. Le nouveau mur du parc Maigret. La création également d'une aire pour camping-car qui se trouve à Nouvelle-Terre. En ce qui concerne l'encours de la dette pour la ville et ses annexes, donc là aussi l'évolution de l'encours de la dette depuis 2009. Donc au 31 décembre 2019, la dette était de 34,5 millions d'euros, donc elle est constituée de 35 contrats pour un taux moyen de 1,29%. Elle est indexée à 52% sur du taux fixe, à 45% sur du variable. Donc à ce montant, nous devons ajouter de 2,9 millions d'euros, comme vous le voyez, constitue le report de la dette pour financer les investissements qui ont été reportés. Je tiens à préciser que dans une collectivité, nous ne souscrivons des prêts qu'au fur et à mesure des besoins. Hein, ça n'est pas comme dans le privé où lorsque l'on a un projet, on souscrit un prêt du montant du projet immobilier, par exemple. Au niveau de la collectivité, nous empruntons au fur et à mesure des besoins de trésorerie.
Dans une limite évidemment définie par le conseil municipal.
Bien sûr. Donc, la capacité de désendettement de la ville, c'est ce qui a été précisé tout à l'heure. Donc là, on le voit, cette capacité est de 6,72 années. Donc, je ne reviens pas sur la définition de ce ratio, puisqu'il vous a été...
On peut constater un léger rebond sur la dernière période liée essentiellement aux travaux du musée, hein, puisque le musée est un équipement qui, au total, coûte 23 millions d'euros et largement subventionné et fait l'objet évidemment d'un mécénat, mais qui néanmoins engage les crédits municipaux, ce qui explique le rebond que l'on aperçoit à la fin de la colonne, oui. Sachant que jusqu'ici nous étions systématiquement en dessous de la capacité de désendettement de la strate et on a vocation à y revenir très vite, évidemment. Oui.
En 2018, nous n'avons pas sollicité de prêt. Donc, ce qui explique qu'en fait, sur un an, je veux dire, nous avons eu. Donc, les dépenses réelles des budgets par destination, jusqu'à présent, aménagement et services urbains. Part importante du Camembert, dirons-nous. Là, bien évidemment, avec le projet musée, on voit que la culture se taille la part du lion au niveau de la destination de ses budgets. Donc, là,
regardez un petit peu. Ce sera pas comme ça tous les ans, hein, Sophie.
Donc, les différentes proportions en fonction des destinations des dépenses.
Merci.
Je vous rends la parole.
Merci Christine pour cet examen très, très complet qui vous permet en tout cas à certains d'entre vous de découvrir un petit peu la répartition d'une année budgétaire, en l'occurrence celle de 2019, à la fois en recettes et en même temps en dépenses. Monsieur le Président.
Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, avez-vous des observations à présenter ou des explications à demander sur la gestion de Monsieur le Maire ? Madame Perra.
Merci. La Chambre régionale des comptes avait fait remarquer à la Ville qu'à chaque budget, la clôture des comptes faisait apparaître un résultat d'investissement positif important qui était réservé au budget suivant. Ce jeu d'écriture répétitif n'était certes pas défendu, mais la répétition du procédé portait préjudice sur la sincérité du budget prévisionnel. Et on constate qu'il y a de nouveau de l'investissement qui est reporté sur l'année 2020. Et puis après, j'aurais des questions. Pourquoi a-t-on des dépenses de personnel fortement en dessous de la moyenne nationale, 50% en dessous? Les Sparnassiens et Sparnassiennes n'ont-ils pas besoin de services publics? Dans le même temps, on constate que les dépenses de fonctionnement sont, elles, plus dispendieuses que celles de la moyenne nationale, au-delà de 25% en plus. Est-ce du fait que des services de la ville ont été confiés à des entreprises privées?
Autre intervention, je pense que tu prends toutes les... Autre intervention, je ne vois pas qui... Pas d'autres interventions? Pas d'autres questions? Madame Deplanc?
Alors moi... J'ai une question. On constate que les investissements ne sont pas réalisés et que le budget de fonctionnement a été consommé d'un quart. Pourquoi ? Ensuite, j'en ai une autre pour les cellules commerciales de Bernon. Coûtent-elles plus cher que les autres ? Pouvez-vous nous dire quels ont été les investissements faits en 2019 ? Pourquoi faire des comptes séparés entre les cellules commerciales et celles de Bernon ? Et de la même façon, pourquoi les commerces de Bernon ne sont-ils pas inclus dans les opérations vitrines d'Épernay? J'en aurai une autre sur les campings plus tard.
Une autre question?
Ouais.
Allez-y en même temps.
Je vais en même temps?
Oui, oui.
Alors, quels sont les investissements faits au camping? Quand investirez-vous dans des bungalows? Répondons aussi aux besoins de ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôtel ou dans un camping-car. Voilà.
Il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres observations. Je vous redonne la parole.
Oui, s'agissant du contrôle qu'avait fait la CRC, la Chambre régionale des comptes, sur la ville, en fait, la Chambre régionale des comptes considérait que plutôt que d'afficher un exercice excédentaire de manière aussi importante sur l'investissement. Il faudrait en fait peu de temps avant la fin de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire avant le 31 décembre, il faudrait faire une décision modificative pour, en quelque sorte, diminuer le montant des besoins en investissement correspondant à des opérations qui ne sont pas terminées au 31 décembre. Je m'explique. Quand on engage un budget, on est censé dépenser l'argent sur l'exercice budgétaire. Or, il se trouve régulièrement que des opérations qui ont démarré en travaux généralement en mars, puisqu'on peut difficilement commencer les travaux en janvier ou février, compte tenu des risques de gel s'agissant de chantiers de travaux publics notamment, ce qui est l'essentiel de nos dépenses, les opérations démarrent en général en mars, voire en début avril. Et en règle générale, toutes les opérations ne sont pas terminées au 31 décembre, ce qui fait qu'on reporte la partie du chantier qui n'est pas terminée financièrement, on la reporte sur l'exercice suivant, ce qu'on appelle un report. La Chambre régionale des comptes, il faudrait en fait annuler les crédits non utilisés sur l'exercice N et les recréer sur l'exercice N plus 1. Ce qui est encore une fois une indication que nous donne la Chambre régionale des comptes, mais vous l'avez souligné, qui n'est pas une obligation. Et effectivement, sur un certain nombre d'opérations, c'est compliqué pour nous de... Alors que l'opération est en cours, simplement le chantier a été décalé de quelques temps. Je prends l'exemple le plus emblématique. Ça a été quand on a démarré les travaux du musée et quand on a commencé à faire le curage du musée, du château Perrier, on a été surpris par de la poussière de plomb qui s'est mélangée à l'atmosphère, à l'air intérieur, qui fait qu'on a dû interrompre le chantier pendant 3 mois et demi, le temps d'extraire cet air chargé de poussière de plomb et de ventiler le musée permettant la reprise des travaux. Évidemment, ça ne pouvait pas être prévu dans les prévisions budgétaires et donc il y a eu une dérive du budget d'investissement correspondant du musée. On va avoir cette année, avec la crise du Covid, évidemment, un certain nombre d'opérations qui auraient dû être lancées en travaux en mars ou en avril et qui ont été décalées à juin ou juillet parce que, évidemment, tous les chantiers étaient arrêtés, les maîtres d'œuvre ne travaillaient plus et donc on va à nouveau avoir ce décalage. Alors, c'est ensuite une question de présentation comptable. Ça ne remet en rien en jeu la sincérité du budget, puisque nous, on affiche qu'une dépense a été, par exemple, engagée à hauteur de 75%. Les 25% restants passent en report et donc s'enchaînent derrière. L'opération que la Chambre régionale des comptes aurait souhaité qu'on fasse, c'est d'annuler les 25% non dépensés l'année N pour les réinscrire en dépenses budgétaires l'année N plus 1. Ça ne change rien au bout du compte, c'est simplement une question de présentation, mais nos reports sont parfaitement clairs, on les présente chaque année, et donc il n'y a pas de litige sur le sujet. S'agissant des dépenses de personnel, pourquoi les dépenses de personnel sont-elles moins importantes chez nous? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est vigilant sur la création des postes budgétaires. Ensuite, parce qu'on mutualise un certain nombre de dépenses de personnel avec l'agglomération. Certains agents travaillent en partie pour la ville, en partie pour l'agglomération, et donc sont mutualisés dans leurs dépenses. Et puis, on a effectivement un certain nombre de services qui sont assurés par des prestataires extérieurs. Je prends l'exemple de la restauration scolaire. Autrefois, nous avions un restaurant scolaire qui n'était plus aux normes. Quand on a décidé de fermer le restaurant scolaire, plutôt que de recréer un nouveau restaurant scolaire, on est passé par un prestataire extérieur qui s'appelle API, qui globalement donne satisfaction. Alors, parfois, il y a des mécontentements et on intervient auprès de cette société. Parfois, on a un satisfecit total et à ce moment-là, on estime que le choix qui a été fait est le bon. Idem sur certaines prestations de nettoyage. Il y a certains équipements qui, notamment compte tenu de leur configuration, nécessitent un nettoyage fait par des équipes extérieures. Je prends l'exemple de la médiathèque, on en a souvent parlé, parce qu'il y a des grandes surfaces vitrées qui sont des espaces extrêmement hauts et que les règles de la fonction publique nous empêchent parfois d'utiliser nos propres personnels ou d'exposer nos personnels à des risques professionnels liés, par exemple, à une intervention à 3 ou 4 mètres de hauteur. Donc, dans ce cas-là, on fait appel à des sociétés privées qui font le travail à notre place. Il y a comme ça toute une série d'exemples qu'on peut relever, qui ont toujours existé et qui sont plus ou moins importants selon les périodes, mais on a souvent eu ce débat. Madame Perrin, vous considérez que tous les emplois, enfin, toutes les activités devraient être assumées par des agents du service public. Nous estimons que pour certaines d'entre elles, d'autres personnels sont plus qualifiés que nous parce que ça ne correspond pas à des missions qui sont au cœur de notre métier. Fabriquer des repas, c'est aujourd'hui un métier. Si la France est le premier la première nation en matière de services à l'entreprise, en matière de fabrication de repas avec des groupes comme Sodexo, etc. C'est parce qu'il y a un vrai savoir-faire en la matière et que nous estimons que nous n'avons pas le même savoir-faire. Dans d'autres cas, nous estimons qu'il est préférable d'avoir des emplois publics plutôt que des emplois privés. Mais je pense pouvoir dire que dans la quasi-totalité des villes, il y a une variation qui existe en la matière. Des villes qui ont très peu d'agents publics et beaucoup de services privés, d'autres qui ont essentiellement des services publics et plutôt des services assumés en régie et très peu, régie publique et très peu par le privé. Nous, on se situe dans une moyenne, à mon sens, tout à fait classique. Madame de Planck, s'agissant des cellules commerciales, alors, les cellules de Bernon ne sont pas mélangées avec celles du centre-ville parce que ce sont des opérations différentes qui ont fait à l'époque historiquement l'objet de budgets annexes séparés. Et un budget annexe doit correspondre à une opération. Si effectivement on avait acheté en même temps les cellules de Bernon et celles du centre-ville, ça formerait un seul et même budget annexe. Dans la mesure où l'opération de création du budget annexe du centre-ville a été plus ancienne, on a d'abord à l'époque créé un budget annexe pour la cellule du centre-ville, pour les cellules du centre-ville qui sont devenues une cellule puisque les autres ont été vendues. Et quand on a fait l'opération de renouvellement urbain de Bernon, on a recréé un budget annexe, mais il n'y a pas de distinction à faire entre les uns et les autres. Elles sont de toute façon toutes les deux alimentées par le budget principal. Vous avez posé une autre question, c'est peut-être sur l'occupation de ces cellules. Oui, pourquoi elles n'étaient pas intégrées aux vitrines? Alors, c'est le choix des exploitants d'adhérer aux vitrines ou pas. Hein, les vitrines d'Épernay, c'est une association de 1901. Tous les commerçants d'Épernay n'y participent pas, mais tous ont la possibilité d'adhérer. Et on ne peut pas obliger un exploitant, un commerçant, d'adhérer ou pas. Si derrière votre question, il y a la question notamment des Sparnachek qui a été votée la fois dernière, en l'occurrence, même les boutiques qui ne sont pas adhérentes aux vitrines d'Épernay peuvent bénéficier des Sparnachek puisque c'est un plan de relance qu'on a élaboré à l'échelle de l'ensemble de la ville. Et tous les commerces de détail de la ville, sans exception, qu'elles soient ou non membres des vitrines, pourront bénéficier de ces chèques. Donc, il n'y a pas de discrimination en la matière. S'agissant du camping... des travaux ont été effectués au camping. Alors, je n'ai pas forcément la liste aujourd'hui des travaux qui ont été réalisés. Je sais qu'on a fait des travaux sur les sanitaires, qu'on a encore d'ailleurs un bloc sanitaire à refaire. Il avait été envisagé un moment, alors, ce que vous appelez des bungalows, c'est des... Comment on appelle ça? Des mobilhomes, c'est ça? Il avait été un moment envisagé d'acheter des mobilhomes et de les louer. Le choix n'a pas été fait budgétairement parlant, mais on n'y a pas forcément renoncé non plus. Et quelque part, c'est peut-être pas plus mal pour cette année, puisque compte tenu du fait qu'on aurait perdu une partie de la saison touristique, mais ça reste une éventualité. Le parking d'Épernay est assez prisé, il est plutôt bien classé, il est apprécié par notamment les touristes étrangers qui viennent y séjourner avec leur camping-car, avec leur tente, avec leur caravane. Et à un moment, et ça fera partie des discussions qu'il faudra avoir, des orientations qu'il faudra avoir, on s'était posé la question de savoir s'il ne fallait pas installer effectivement des mobilhomes ou des bungalows pour... faciliter le séjour touristique des personnes, françaises ou étrangères. Finalement, on peut venir du coup dans un camping sans avoir derrière sa voiture une caravane à traîner. On réserve et on va directement dans un mobilhome installé sur place. C'est un choix qu'il faudra, une question qu'il faudra se poser le moment venu. Moi, personnellement, je ne suis pas hostile. Maintenant, effectivement, quand on installe et quand on investit sur des bungalows, il doit y avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le calcul pour être certain qu'on va arriver à amortir l'acquisition ou la location de ces bungalows, où on les achète, ils nous appartiennent et on les loue, ou on les loue à une entreprise dont c'est le métier, mais il faut qu'à ce moment-là, les recettes tirées de ces bungalows permettent d'équilibrer la prestation qu'on paye à la société. On s'est à plusieurs reprises posé la question, on n'a jamais tranché sur la question, mais on a potentiellement des emplacements qui pourraient accueillir effectivement des bungalows, qui pourraient profiter aussi bien à des gens de notre région qu'à des touristes de passage. Ils réservent sur Internet une semaine ou un week-end et ils occupent à tour de rôle ce bungalow. C'est peut-être pas plus mal qu'on ne l'ait pas fait cette année parce qu'on sait ce qu'est la saison touristique et les contraintes de désinfection. Parce qu'à chaque fois, imaginez dans la période Covid, il faut désinfecter tout le bungalow avant de le laisser à quelqu'un d'autre. Alors que quand chacun vient avec sa caravane ou sa tente, il est chez lui, donc il n'a pas à faire ce travail-là. Mais probablement que la question se reposera dans les années qui viennent. Et là, ça mériterait peut-être de faire une étude à un moment ou à un autre sur le fait de savoir si c'est pertinent économiquement parlant, si ça pourrait élargir la clientèle du touristique d'Épernay, pourquoi pas, c'est peut-être une opportunité intéressante. Donc, il n'y a pas d'autres questions, je crois.
D'autres interventions ? Alors, avant de mettre les rapports aux voix, je demanderai à Monsieur le maire de bien vouloir, conformément à la loi, quitter la salle des séances. Bien, il a bien quitté la salle. Pour les comptes administratifs de la ville, c'est-à-dire les rapports 8 à 13, qui est contre ? Deux, donc, Madame Demange, Monsieur Tissier. Qui s'abstient ? Ne prennent pas part, Monsieur Humbert et Monsieur Mathieu. Pas d'autres. On peut demander à Monsieur le maire de rentrer dans la salle. Pardon ? Ah, les budgets annexes, pardon. Excusez-moi, c'est le plus important. Donc, sur les budgets annexes, vote global, vote groupé, ou vous souhaitez global, pas d'opposition. Alors, je reprends donc pour le budget annexe. Qui est contre ? Deux, Madame Demange et Monsieur Tissier. Qui s'abstient ? Deux, de même. Pardon ? Pardon, ne prennent pas part au vote. C'est tout. Donc, est-ce que cette fois-ci, on peut demander à Monsieur le maire, excusez-moi, de rentrer ? On peut l'inviter à regagner sa place. Et moi, je vais regagner ma place près du vice-doyen. Ah bah oui.
Merci à tous et je vous propose donc de poursuivre le déroulement de notre conseil. Je pense que nous arrivons au rapport 14. Il s'agit de l'affectation des résultats de l'exercice 2019 sur la ville et les budgets annexes. Chers collègues, je vous propose d'adopter l'affectation des résultats de l'exercice 2019 pour le budget principal et les budgets annexes détaillés dans le rapport en votre possession. Comme l'a expliqué tout à l'heure, l'objectif, c'est maintenant, avec cet excédent notamment, de pouvoir nourrir un budget supplémentaire qui vous sera présenté à la rentrée. Ah, c'est fait déjà ? Le 14 a été voté ? Oui, les budgets annexes ont été votés, mais là, c'est l'affectation des résultats. D'accord, là c'est 14 à 19, donc c'est pour les différents budgets, je vous propose d'affecter les résultats. Pas de difficulté, pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au point 20, 21 et 22. Chers collègues, nous avons à nouveau, lors de cette séance qui s'inscrit en début de mandat, une série de désignations. Tout d'abord, des commissions dans lesquelles la pluralité des tendances du conseil municipal doit être respectée. À cette fin, il convient d'en adapter la composition afin que chaque groupe dispose au moins d'un représentant. S'agissant du point numéro 20, des commissions d'études, afin de préparer le travail du conseil municipal et d'étudier certains grands projets, il vous est proposé de former 5 commissions thématiques énumérées dans le rapport en votre possession, en l'occurrence la commission finances personnelles et administration générale, la commission sport et santé, la commission culture, éducation, jeunesse, la commission cadre de vie, logement et transition écologique et la commission transition numérique, commerce, citoyenneté et communication. Avez-vous des questions sur ces commissions et sur leur composition, sachant que l'objectif, c'est d'essayer de former évidemment des commissions dont les thématiques se rapprochent, qui verront donc ces commissions présidées parfois par plusieurs adjoints et qui auront à animer ces commissions de manière à ce que vous puissiez débattre sur l'ensemble des questions soumises au conseil municipal, mais également sur d'éventuels projets. J'ajoute que la commission, je l'ai précisé l'autre jour, pourra également auditionner des intervenants extérieurs, je prends l'exemple de dirigeants sportifs, si la commission des sports, représentants d'associations culturelles ou du théâtre à la commission culture, interroger des personnes qui sont susceptibles de nourrir les travaux de la commission de manière à ce que celle-ci soit la plus intéressante possible. Alors, sur la création des 5 commissions thématiques et leur composition, est-ce qu'il y a des oppositions? Oui?
Merci. J'ai une petite question, du coup, puisque vous avez dit, monsieur le maire, que on devait revoir notre mode de gouvernance, etc., etc. Est-ce qu'il est prévu que la présidence ou une vice-présidence d'une commission soit dédiée à l'opposition?
Non, c'est pas envisagé, mais on n'est pas dans le cadre d'une assemblée traditionnelle comme ça peut exister, je pense à l'Assemblée nationale, où en fait on a une commission des finances qui, généralement c'est celle qui est attribuée à l'opposition, qui permet de contrôler les comptes. Moi, je suis tout à fait prêt, puisque là-dessus on est d'une parfaite transparence, à étudier la question, peut-être pas au niveau de la présidence de la commission, mais étudier un poste d'observateur particulier qui pourrait être confié à un élu de l'opposition sur le sujet. Personnellement, ça ne me heurte pas. Donc on va étudier la question et puis on reviendra vers vous, notamment lors de la prochaine commission des finances. Donc sur le principe de la création de ces 5 commissions, on n'en est pas encore à la répartition des élus. Madame Demange.
Merci, juste une petite question pratique. Étant donné qu'il n'y a qu'un élu par opposition, il aurait pas été envisageable d'avoir un suppléant en cas d'impossibilité d'assister à la réunion pour que quelqu'un puisse quand même représenter ou poser des questions éventuelles.
Là, il faudra revoir le règlement intérieur. Personnellement, je ne suis pas opposé. C'est-à-dire que si effectivement je me mets à la place d'un groupe d'opposition, si l'un des élus ne peut pas venir, est absent, souffrant, etc., qu'il puisse se refaire présenter par quelqu'un de son groupe pour la séance qu'il louperait, j'y vois pas d'inconvénient, mais est-ce qu'il faudra modifier le règlement intérieur ? Alors, on proposera la modification du règlement intérieur lors d'un prochain conseil, ce qui permettra pour le coup d'offrir cette facilité. D'autres questions ? Pas d'autres questions, donc avis contraire, abstention. Donc on retient l'organisation de ces 5 commissions et on rediscutera dans le cadre du règlement intérieur l'organisation du travail de ces commissions. Alors, s'agissant de la composition des commissions, j'ai reçu les candidatures suivantes. Pour la commission Finances personnelles et administration générale, Christine Mazzi, Catherine Crozat, Édouard Abon, Damien Godier, Nathalie Houssac, Rémi Grand, Luc Scherrer, Candy Lheureux, Cindy Demange, Antoine Imbert et Hélène Perrin. Sur la commission Sport et Santé, j'ai reçu les candidatures de Benoît Moitier, Damien Godier, Nathalie Vakers, Pierre Marandon, Anna Villemain, Romain Tissier, Antoine Imbert et Hélène Perrin. Pour la commission Culture, Éducation, Jeunesse, j'ai reçu les candidatures de Sophie Hercher-Bousseau, Nathalie Houssac, Yuri Philippe, Abida Sharif, Astrid Tussaud, Ahmed Mam, Mathieu Pouril, Denise Marty, Édouard Abon, Jean-Michel Lorca, Roxane Devarine, Cindy Demange, Denis Mathieu et Sarah Deplanck. Sur la commission Cadre de vie, logement et transition écologique, Joachim Verdier, Jonathan Rodriguez, Catherine Crozat, Édouard Abon, Ahmed Mam, Anna Villemain, Mathieu Pouril, Nicole Lesage, Rémi Grand, Jean-Michel Lorca, Roxane Devarine et Marie-Claire Bilbord, Cindy Demange, Denis Mathieu et Sarah Deplanck. Sur la commission Développement numérique, commerce, citoyenneté et communication, Mustapha Karim, Ahmed Mam, Jacques Fromm, Luc Scherrer, Jonathan Rodriguez, Candy Lheureux, Pascal Marniquet, Sophie Hercher-Bousseau, Romain Tissier, Denis Mathieu et Sarah Deplanck. Est-ce que tout le monde a été appelé? Est-ce que ça correspond bien aux aspirations des uns et des autres? Si tel est le cas, il n'y a pas besoin de passer au vote, puisque évidemment chacun trouve satisfaction, en tout cas à sa présence dans les différentes commissions. J'avais quelque chose à vous dire à propos des commissions. À l'instant. Le point 21, il s'agit de la commission ravalement de façade. Ainsi qu'indiqué dans le rapport en votre possession, la ville a mis en place depuis 2003 des subventions pour les ravalements de façade repérés, d'intérêt général, d'intérêt architectural. S'ajoutent à ce dispositif les aides délivrées dans le cadre de campagnes obligatoires de ravalement. Pour l'attribution de ces subventions, il est constitué une commission ad hoc composée de 9 membres, dont 6 de la majorité municipale et 1 pour chaque groupe de l'opposition. Est-ce que sur cette commission, vous avez des questions particulières avant que nous la désignions? Pas de difficultés particulières. Donc, j'ai reçu les candidatures suivantes. Pour la majorité municipale, Joachim Verdier, Sophie Hercher-Bousseau, Édouard Abon, Jean-Michel Lorca, Marie-Claire Bilbord et Rémi Grand. Nous avons également Romain Tissier, Antoine Imbert et Hélène Perrin. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Les candidats sont donc déclarés immédiatement élus sans vote formel. Nous avons ensuite le projet, le comité de projet Action Cœur de Ville. Pour mener à bien ce projet, le conseil municipal a constitué un comité de projet comprenant 4 représentants du conseil municipal, au nombre desquels siège un élu de l'opposition. Est-ce que sur cette commission, il y a des questions particulières ? Pas de questions. Au nom de la majorité municipale, je propose Mustapha Karim, Joachim Verdier et Jonathan Rodriguez. J'ai également reçu les candidatures suivantes. Cindy Demange pour le groupe Le Renouveau Parnassien. Pour le groupe Épernay en commun et Épernay en commun, groupe citoyen et communiste, la candidature d'Antoine Imbert. Il va donc falloir voter. Nous allons donc passer au vote. Et pendant les opérations de vote, on passera au rapport suivant, on reviendra sur la proclamation des résultats. Donc je pense qu'on a tous des bulletins sur les... On va les distribuer. Alors, en l'occurrence, vous avez des bulletins avec 4 noms à entourer sur 5 présents. Donc, vous pouvez en entourer moins que 4, mais en aucun cas plus que 4. Et vous avez un bulletin blanc si vous voulez voter blanc. Donc, vous ne barrez pas, vous entourez ceux que vous voulez. C'est pas pareil. Est-ce que tout le monde a eu ses bulletins ? On peut procéder au vote. Alors, il nous faut désigner 2 scrutateurs. Alors, le secrétaire de séance, en général, est requis pour le poste. Et puis, on va demander à, en partant par l'âge le plus jeune, où est-ce qu'elle est Astrid ? Ah, c'est Yuri ou Astrid ? Allez, vas-y, Astrid. Elle est encore sur le podium, mais maintenant à la 3e place. Voilà, pendant le dépouillement, je vous propose de continuer l'ordre du jour du Conseil. Christine, on va présenter les rapports 23 et puis on va continuer. Et puis on proclamera les résultats dès que ceux-ci nous parviendront.
Alors, le rapport numéro 23, les frais que le maire est amené à engager dans le cadre de sa fonction sont pris en charge par une indemnité forfaitaire annuelle versée dans ce cadre et fixée par délibération du conseil municipal. Établie à 5 000 euros depuis 2008, je vous propose de maintenir l'indemnité à ce montant.
Alors, un petit mot d'explication, puisque ce sont des frais, évidemment, dont je rends compte en produisant l'ensemble des factures. Je n'utilise jamais l'enveloppe en totalité. Je crois que je dois restituer à peu près 600 à 700 euros en moyenne par an, et ça sert essentiellement pour des déplacements, pour des hébergements à l'étranger principalement, puisqu'il est difficile, quand on est dans nos villes jumelles notamment, de faire payer les factures d'hébergement ou de transport par mandat administratif. Et donc, dans ce cas-là, c'est à partir de ce compte que les frais sont avancés et comptabilisés. Et évidemment, ces factures sont présentées en fin d'année pour contrôle, de manière à ce que il soit bien démontré qu'il s'agit de dépenses dites de représentation et pas de dépenses à caractère personnel. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Madame Demange, pardon.
Merci, monsieur le maire. Bon, vous avez répondu en partie à ma question. Pourrait-on avoir un exemple concret de ces frais de représentation ? Non pas pour vous fliquer, mais pour avoir une idée des frais pris en charge par la collectivité. Vous avez dit précédemment que votre mandat vous passionnait. Comme vous le savez, la passion n'a pas de prix, enfin a priori. Votre indemnité de maire étant au maximum légale, ne pourriez-vous pas faire l'impasse sur ces frais ?
Alors, encore une fois, ce sont pas ce n'était pas une rémunération, c'est bien des frais. Bon, par exemple, quand il m'arrive d'aller à Ettlingen ou à Parme, où on a des liens avec ces villes, quand il faut payer l'avion, quand il faut, je me souviens avoir rencontré, invité à déjeuner à Strasbourg, le maire d'Ettlingen il y a quelques mois, pour échanger avec lui, chacun ayant fait l'effort d'avancer vers Strasbourg, qu'on puisse se coordonner sur des réunions, c'est des frais qui sont pris en charge de ce type-là. Donc, c'est essentiellement des frais de déplacement, d'hébergement, quand il y a un hôtel à l'étranger, de restauration. Ça peut être parfois, quand je suis invité, il m'arrive de prendre un bouquet de fleurs quand je suis invité, des dépenses de ce type. Rien de personnel. Et donc, tout ça, encore une fois, toutes les factures sont collectées, classées, et tout ça est mis à la disposition, évidemment, public qui peut contrôler à tout moment la nature des dépenses qui sont engagées. C'est un compte complètement distinct de mes comptes, hein. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et donc la somme qui n'est pas utilisée chaque année est remboursée de ce compte particulier qui est donc un compte de représentation est remboursée à la ville systématiquement chaque année, de sorte qu'on arrive aux 5 000 euros et selon les années, je rembourse plus ou moins. L'enveloppe n'est pas cumulable d'une année sur l'autre. C'est une enveloppe annuelle qui est l'excédent est remboursé systématiquement. Il n'y a jamais eu de situation où dépenser plus que ce qui est autorisé. D'autres questions ? Pas d'autres questions sur ce rapport ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 24, enfin à la page 24 en tout cas du. Christine Mazzi.
Oui, c'est bien le rapport 24. Oui, oui. Il s'agit d'un avenant suite à la raménagement d'un prêt par Pluriel Novilia. Pardon. Donc, suite à la renégociation d'un prêt, Pluriel Novilia réitère sa demande de garantie à 100% des prêts effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations dont la liste est jointe en annexe. Donc, en fait, ce réaménagement ne modifie pas le montant garanti par la ville auprès de ces prêts de Pluriel Novilia. Simplement, Pluriel a renégocié un taux à la baisse et étant donné qu'il y a un avenant, nous devons de nouveau voter cette garantie.
Merci. À chaque fois qu'effectivement qu'un prêt que nous garantissons est renégocié, on doit repasser la garantie d'emprunt parce que les modalités du prêt ont changé. Donc, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Madame Perrin.
Nous ne sommes pas contre le fait que la ville garantisse les emprunts de Pluriel Novilia. Par contre, nous souhaiterions que cette garantie soit assortie d'exigences envers l'organisme logeur, notamment sur la réhabilitation intérieure des appartements, sur le système de comptabilisation des loyers et l'éradication des nuisibles.
En général ou sur cette opération-là ?
En général, qu'à chaque fois qu'on garantisse un emprunt, ce soit pas juste la garantie de l'emprunt, mais que en retour, l'organisme logeur soit redevable de certaines exigences.
D'accord. Nous transmettrons aux intéressés. Pas d'opposition, pas d'abstention. Pardon, Madame De Planck.
Je veux juste donner des petites précisions sur ce que vient de dire Hélène. Par exemple, on parlait de refaire les appartements au moment de partir. Plurian Novilia demande à ses habitants de refaire vraiment les lieux quand ils habitent encore dedans, ce qui est forcément contraignant quand on a des enfants en bas âge. Le système de prise en compte des paiements de loisirs numériques, pardon, n'est pas mis à jour, suivant Plurian Novilia, ce qui contraint les gens à être forcément prélevés automatiquement. Tout le monde ne veut pas ou ne peut pas le faire. Et quand on paye par virement, en fait, ils sont comptabilisés après le mois. Ce qui fait qu'on devient automatiquement un mauvais payeur. Il faut voir à réviser tout ça, si effectivement on peut appuyer là-dessus. Et la date de prise en compte des paiements n'est pas compatible avec des personnes dont les versements de minima sociaux ou allocations chômage, qui sont souvent après le 10 du mois, donc ne sont pas pris en compte non plus. Voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez, sur le sujet, de me faire un courrier ou une petite note que je transmettrai à Plurian Novilia en leur demandant de répondre, auquel cas on vous donnera la réponse, évidemment, très détaillée sur ces différents points. Il y a peut-être des évolutions possibles, évidemment, mais pour ne pas commettre d'erreur et pour ne pas mal interpréter vos propos, je préférerais que vous me fassiez parvenir un petit...
Sans aucun souci.
Okay. Merci. Donc, oui, monsieur...
Je suis d'accord avec Madame Perrin et Madame De Planck. Je pense qu'il faudrait avoir un droit de regard quand même avec Plurian Novilia. Moi, j'ai un cas qui m'a été reporté, une personne qui habite dans un appartement depuis plus de 20 ans, qui n'a jamais été refait par Plurian Novilia, et lui demande de le refaire pour partir, alors que le délai de vétusté est de 20 ans. Donc, c'est bien de garantir leur prêt, mais il faut avoir un petit droit de regard, ça pourrait être pas mal.
Bon. Donc, on posera ces différentes questions à Plurian Novilia et on vous tiendra informé évidemment des réponses, on vous les fera suivre. Donc, sur ce rapport, avis contraire, abstention, deux abstentions, le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 25. Alors, j'interromps un instant, puisque nous avons donc au résultat du premier tour, nombre de votants 35, suffrage exprimé 35, majorité absolue 17. Obtiennent Mustapha Karim, 33, Joachim Verdier, 33, Jonathan Rodriguez, 33, Cindy Demange, 3, Antoine Imbert, 9. Sont élus au premier tour Mustapha Karim, Joachim Verdier, Joachim Rodriguez. Il faut donc faire un deuxième tour entre Cindy Demange et Antoine Imbert. Donc, on va redistribuer des bulletins. Cette fois-ci, ils sont comment ? Ah, d'accord, je ne l'ai pas vu de mieux. On va attendre que la distribution des bulletins soit faite et on reprendra nos débats par le rapport numéro 25. Benoît est arrivé. Oui, oui. Qui était le deuxième pouvoir ? Ah, c'est Nathalie qui a donné Abida. D'accord. Donc j'invite Monsieur Humbert et à procéder au dépouillement. Pendant ce temps-là, on continue donc le rapport 25. Christine.
Oui, donc il s'agit là cette fois d'accorder à la SADHLM Pluriel Novilia la garantie pour un nouvel emprunt. Donc une garantie à hauteur de 100% pour un emprunt de 3 814 394 euros qui permettra de financer la construction de 30 logements collectifs et individuels qui seront situés rue Louise Aubin-Mouette, allée du Québec, avenue du Général Marguerite et quartier Rosemont, lot 1 et 3.
On organisera prochainement une visite sur place, probablement au retour de l'été, pour voir l'avancement de ce quartier. Vous serez évidemment invité. Madame Perrin. Oui, d'accord, même remarque. D'accord. Pas d'opposition, pas d'abstention, une abstention. Est-ce que... Humbert, est-ce que vous abstenez ou... C'est sur la garantie d'emprunt pour... Oui, allez, deux abstentions. Nous poursuivons. Rapport 26, Mustapha Karim.
Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter le bilan annuel des forfaits post-stationnement. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, la dépénalisation du contrôle du stationnement implique que celui-ci devienne une occupation du domaine public. Et donc, la ville, la collectivité, fixe la redevance qui est payable soit par horodateur, paye by phone, soit sur une base forfaitaire s'il y a dépassement. Cette base forfaitaire est fixée par la collectivité à 16,50 euros, 17 dans la plupart des cas. Donc l'usager a 3 mois pour régler ce forfait post-stationnement et il a 1 mois pour le contester. Cette contestation s'appelle donc un recours administratif préalable obligatoire qu'on réduit en rapport. Concernant le bilan 2019, il a été émis 12 468 forfaits post-stationnement et 213 recours, soit 1,71%. La répartition du produit de ces FPS se fait dans la commune et en accord avec l'agglomération. Pour cela, la ville a passé une convention avec l'agglomération. La ville étant compétente, elle, dans l'institution de la redevance, l'agglomération, elle, compétente en matière d'organisation et de mobilité de voirie. Et cette convention a été signée le 29-9. Concernant 2019, recette globale constituée par les FPS représentée, et vous l'avez dans les... cette recette élevée donc à 183 110,58 euros. L'affectation, alors, quand on enlève les dépenses, c'est-à-dire les frais d'émission des FPS, le traitement des recours et les frais relatifs au traitement informatique, il reste effectivement 156 178,58 euros. Je vous propose donc d'approuver pour la reconduction pour l'année 2020 de l'affectation de ces recettes issues des forfaits post-stationnement perçus par la commune au financement de nos opérations de voirie visant l'amélioration de la circulation. Pour information, en 2019, l'affectation de cette recette, donc de 156 178,58 euros, a été affectée aux travaux de l'avenue Jean Jaurès. Vous le verrez dans le document qui a été qui vous a été donné aussi pour la suite. Le montant estimé pour le pour l'année 2020, lui, est en chute libre, notamment dû à l'exonération du stationnement pendant la période Covid.
Merci.
Presque. Et je vous propose également de renouveler la convention entre la ville et la communauté d'agglomération afin que les recettes de ces FPS soient intégralement conservées par la commune.
Merci. Avant de passer aux questions, je vous donne le résultat du scrutin. Nombre de votants 35, blanc 27, 1 nul, suffrage exprimé 7, majorité absolue 4, obtient Antoine Imbert 5 voix, Cindy Demange 2 voix. Antoine Imbert est donc élu. Sur le forfait post-stationnement, y a-t-il des questions sur le rapport annuel? C'est un rapport qu'on aura évidemment tous les ans. Madame Demange.
Merci. Juste une question. Donc, comment on explique le motif d'annulation de 82 au nombre de 82? L'usager avait bien justificatif de paiement et a payé la durée nécessaire.
Alors, je sais qu'il peut arriver que les personnes, quand il y a des tickets de stationnement et que la porte est claquée, qu'il y a un courant d'air, le ticket de stationnement arrive par terre. Ça m'est déjà arrivé, donc je sais que ça existe.
C'est essentiellement ce type de problématique. En réalité, le forfait a déjà été payé. Mais
le ticket n'est pas visible.
Le ticket n'est pas visible, voilà.
Et pour peu que la personne, alors parfois la personne a gardé le ticket sur elle au lieu de le remettre dans la voiture, mais si elle vient justifier du paiement du ticket sans l'avoir mis, et si elle se présente au service de police, ben on acte bien du fait qu'elle a un ticket valant stationnement. Et parfois par étourderie, parfois le ticket tombe par terre, parfois il n'est pas visible parce que en claquant la porte, il y a un petit courant d'air et le ticket se retourne ou le ticket tombe. Donc en général, quand les gens ont payé et ont un procès, ils viennent aussitôt avec leur ticket en disant bah, « Attendez, je ne comprends pas, j'ai un forfait post-stationnement à payer alors que j'avais bien payé. » Donc dans ce cas-là, il y a un contrôle qui est fait, il y a annulation de la verbalisation. Pas d'autres questions? Oui, Mathieu?
Merci. C'était juste pour savoir, est-ce qu'on a une idée du nombre d'utilisateurs de Pay by Phone, le succès de l'application, est-ce qu'on a un retour là-dessus ou pas?
Alors, j'ai eu une réunion avec le service stationnement. Aujourd'hui, on est à peu près à une trentaine de pourcents en termes d'utilisation de Pay by Phone. Bon, donc, je pense qu'il y a encore une marge de progression, ce qui serait très bénéfique pour la ville. Alors, même si Pay by Phone prend une commission au passage, il n'en reste pas moins que le coût de maintenance des horodateurs, ne serait-ce que ça, est certainement plus élevé. Donc, pour la petite information, vous avez entendu parler de la mort du PIAF. Ce n'est pas une litote, hein, c'est pour de vrai, le PIAF est mort. Donc le PIAF étant mort, bon, il va falloir qu'on le remplace et qu'on suggère aux gens
d'avancer de plus en plus. Le PIAF, c'est pas l'oiseau, c'est le parcmètre individuel à Fente.
Exactement ça, c'était un petit trait d'humour.
Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, quand on a pris l'habitude de faire Pay by Phone, c'est intéressant parce que d'abord, on charge l'application qui est valable dans d'autres villes. Et ensuite, si on se rend compte qu'on va déborder de son temps de stationnement, on peut rajouter du temps à distance sans repartir à la voiture. Alors que sinon, il faut repartir à la voiture, remettre un ticket. Là, on peut accroître la durée dans la limite de la zone qui est prévue, évidemment. Pardon ? Oui, exact. C'est-à-dire qu'on peut moduler, c'est vraiment du paiement à la carte, c'est-à-dire en fonction des besoins. Il y a des fois, on pense en avoir pour une heure, et puis en fait, au bout d'une demi-heure, on est sorti, donc on paye moins. Et inversement, parfois, on est pris une heure et demie alors qu'on avait payé une heure, et donc du coup, on n'a pas besoin de retourner à la voiture et on évite des PV.
Si je peux me permettre, juste une petite information, mais vous devez certainement le savoir, avec Pay by Phone, les 15 premières minutes sont gratuites en zone rouge.
Tous les jours, vous avez effectivement les 15 premières minutes gratuites, c'est-à-dire que celui qui va simplement en ville chercher son pain. Comment ? En zone rouge ?
Vert et rouge, pardon.
Vert et rouge, oui.
Vert et rouge.
Donc celui qui va simplement chercher son pain en ville, le temps d'aller chercher sa baguette de pain, il n'a pas à payer son parcmètre parce qu'il est couvert par son Pay by Phone. Pierre, tu avais une question ? Je te voyais lever la main. Ah bon. Pas d'opposition sur ce rapport. Pas oui.
C'est juste une petite question du coup, puisqu'on parle du pay by phone. On m'a posé la question en savoir comment la police était au courant. Donc je suppose qu'ils ont l'application, ils voient par rapport à la plaque d'immatriculation quelle voiture a payé.
C'est juste. Exactement ça. En fait, pay by phone met à disposition de la des agents de la municipale et des ASVP un système qui permet de vérifier.
Rapport 27, Mustapha Karim.
Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, le 15 mai dernier, le conseil municipal a voté une exonération des droits de terrasse dans le cadre du soutien pendant la période du Covid. Bon. Je vous propose aujourd'hui de continuer dans cet élan d'accompagnement et de redémarrage de l'activité en permettant aux cafés, hôtels et restaurants de consentir. Ça marche pas. Ouais. Mille pardons pour le problème technique. Donc je vous propose de permettre donc aux cafés et restaurants d'avoir une exonération totale des droits de terrasse sur 2020. C'est une activité qui est aujourd'hui en difficulté. Nous avons aujourd'hui la nécessité d'aider ces professions et permettre aussi, pourquoi pas, aux Sparnassiens et aux autres touristes ou visiteurs de notre ville de profiter des terrasses et donc de se réapproprier un peu aussi la ville. Pour votre information, une dizaine de dossiers sont déjà à l'étude de demandes de terrasses, d'extension de terrasses pour certains qui n'ont pas encore de terrasses et pourront donc se s'étendre sur le domaine public, soit sur des places de stationnement, soit d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit, nous recevons toutes les demandes, nous les examinons, nous mettons en place tous les éléments pour que la sécurité soit évidemment maintenue et qu'on puisse développer d'une manière ou d'une autre un petit plus de chiffre d'affaires pour ces commerçants-là.
Madame Perrin.
Oui, je me posais la question pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une terrasse. Il y aura une iniquité quelque part.
Oui, mais il n'y a pas de redevance. Donc déjà, ils ne payent pas de redevance. Mais effectivement, il y a une iniquité qui est objective. Quand vous ouvrez un commerce dans une rue étroite où il n'y a pas de terrasse possible, vous le savez. Par contre, là, si vous mettez sur une esplanade, vous pouvez mettre 50 tables, c'est sûr que c'est un avantage, mais qui ne tient pas à la crise, qui tient à la situation objective de chaque commerce. Et on ne peut pas malheureusement installer des terrasses là où c'est impossible, où là, ça mettrait en danger les usagers ou ne permettrait pas, par exemple, le passage des personnes handicapées. Donc, on a quand même des lois qui s'appliquent en la matière.
Alors, il serait peut-être utile à ce moment-là de piétonniser certaines rues certains jours pour que ces 10 commerçants puissent avoir une terrasse de temps en temps.
Alors, ce n'est pas possible partout, puisqu'il y a des rues qui pourraient potentiellement faire l'objet de piétonnisation. On travaille d'ailleurs avec les commerçants sur le sujet, et je crois même savoir qu'il y a des propositions qui sont intervenues dans le cadre du budget participatif. Qui sont souvent des piétonnisations éphémères pour la période d'été ou pour la période du week-end. Donc ça fera l'objet d'un examen par la commission compétente et pourquoi pas par une suite. Mais on ne peut pas garantir à un cafetier que s'il veut une terrasse, on va lui faire, quitte à piétoniser la rue, parce que là, pour le coup, ça désorganiserait complètement le trafic.
J'ai dit certains jours.
Oui, mais c'est pas toujours possible, parce que certains jours, par exemple le samedi, c'est des axes parfois qui permettent aux gens d'aller au marché ou d'aller dans les parkings publics. Et si on coupe l'axe, ben, il n'y a plus de personnes qui rentrent dans le parking public. Donc, on le fait de manière très pragmatique, en fonction des possibilités qu'offre le territoire. Mais on ne pourra pas, en aucun cas, en tout cas, garantir à tout le monde une terrasse, notamment lorsque, et d'ailleurs pour certains d'entre eux, ils n'ont même pas de mobilier de terrasse, puisqu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas de terrasse à exploiter. Donc, c'est une facilité qu'on offre à ceux qui avaient des terrasses et qui payaient une redevance. Mais ceux qui n'en payaient pas parce qu'ils n'avaient pas de terrasse ne sont pas pour autant pénalisés. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec Jacques Fromm, rapport numéro 28.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, même si les marchés alimentaires ont pu être maintenus à Épernay à titre dérogatoire, l'épidémie a eu un impact fort sur l'organisation des marchés, sur la présence des commerçants, la fréquentation de la clientèle et le montant du chiffre d'affaires réalisé. Ainsi, au même titre que l'ensemble du secteur du commerce, les commerçants non sédentaires ont été fortement touchés par la crise sanitaire du Covid-19. Considérant l'intérêt pour la ville d'accompagner les acteurs économiques présents sur le marché, je vous propose donc d'adapter du 1er avril au 30 juin 2020, le montant des droits de place des marchés de la ville en accordant une réduction de 50% pour les commerçants abonnés, titulaires de places fixes ayant maintenu leur participation, et une réduction de 100% pour les commerçants abonnés, titulaires de places fixes n'ayant pas pu maintenir leur participation ou n'ayant pas été autorisés à la maintenir.
Merci. Ça fait partie donc des aides complémentaires qu'on accorde parce qu'effectivement, les commerçants non sédentaires ont souffert dans les marchés. Certains n'ont pas pu venir s'installer du tout. D'autres ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de manière considérable, même s'il y avait parfois la queue dehors. Il n'empêche que la clientèle était loin de correspondre à la clientèle habituelle. Et donc, il me semblait normal que nous puissions les aider. Pas de questions ? Oui, Monsieur Humbert ?
Oui, j'avais quelques petites remarques. Alors, on soutient forcément ces mesures. Je voudrais juste rappeler qu'on a bien reçu votre réponse par mail sur les propositions qu'on vous a faites par mail. Donc, sur l'extension des terrasses, c'est très bien. Il faut que ça soit fait en grande ampleur. Vous avez du coup refusé sur la gratuité des bus. Alors, la gratuité des bus, c'était dans l'optique de si on piétonnisait une partie de la ville, donc du coup, prendre des places de parking, fermer des rues, proposer une alternative en termes de transport aux Sparnassiens. C'était dans cette optique-là. Et je regrette également que vous n'ayez pas suivi sur l'aide des lycéens et étudiants boursiers. Alors, je comprends bien qu'il y a eu les Sparnachèques, mais les Sparnachèques, c'est autre chose. Il faut d'abord mettre de l'argent pour ensuite avoir le bonus. Là, on vous proposait une aide financière de 100 euros, encore une fois sous forme de Sparnachèques, pour aider les commerçants à destination des lycéens et étudiants boursiers d'Épernay. Je pense que c'était une mesure de solidarité qui était de bon sens. Et je pense que financièrement, je pense que la ville pouvait se le permettre. Et on avait aussi une remarque. Alors, on vous avait fait la proposition avec Denis Mathieu sur une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer des nouveaux touristes. Donc, vous m'avez répondu qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Alors, c'est vrai, il y a des vidéos qui ont été faites, mais ça reste des vidéos assez traditionnelles. Et je critique pas du tout le travail qui a été fait, loin de là. Mais je me dis que pour attirer peut-être des touristes différents, peut-être plus jeunes ou moins jeunes, enfin, peu importe, là n'est pas la question. Il faudrait peut-être revoir nos canaux de communication pour toucher ces touristes et essayer d'assurer aux commerçants et restaurateurs d'Épernay une saison pas trop mal. Voilà pour les quelques petites remarques.
Alors, c'est en cours, hein, me dit Benoît. Il y a des réflexions. On a rencontré également le président de l'Office du tourisme il y a quelques semaines et il est prévu de refondre complètement le site internet de l'Office du tourisme. Également de développer la présence sur les réseaux sociaux qui, elle, existe déjà et qui sera intensifiée.
Et une dernière remarque, me signale mon collègue, juste sur le numéro vert que vous parliez dans votre mail, il faudrait aussi le faire connaître, puisqu'on a quelques personnes qui nous ont sollicité, ce numéro vert n'était pas connu. Je pense que tout le monde n'a pas encore le réflexe d'aller sur le site Épernay Agglo pour voir toutes les mesures qui sont prises, en tout cas ce qui est possible de faire. Donc un petit coup de pub D'accord. pour ce numéro vert serait pas mal.
Merci. Sur le rapport, monsieur le Tissier.
D'aider les commerces non sédentaires, c'est très bien. Jusqu'au 30 juin, je trouve ça un peu limite parce que les commerçants continuent de souffrir. Donc...
Non sédentaires, là.
Oui, les non sédentaires. Ouais.
Mais on les, si vous voulez, l'activité du marché a repris. Il n'y a plus de contrôle à l'entrée. On a supprimé l'enceinte qui avait été définie. Donc, on a retrouvé un fonctionnement normal.
Il y a peut-être moins de contrôle et les accès sont libres, mais il n'y a toujours pas la clientèle d'habitude, quoi.
Bon, je pense que l'activité a pas mal repris, hein, mais elle va remonter progressivement, Jacques.
De la normale en fréquentation sur les marchés habituels.
Bien. Sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec Jacques sur les tarifs forains 2020, rapport 29.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la ville d'Épernay organise les fêtes foraines du quartier de la Villa du 14 juillet et de septembre. Le contexte de crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés a déjà entraîné l'annulation de la fête foraine du quartier de la Villa qui devait se dérouler du 3 au 7 juin dernier. En accord avec les représentants de l'État, les représentants des forains, les fêtes du 14 juillet et de septembre seront maintenues, avec un niveau de vigilance particulier et des aménagements de la part des industriels forains. Adaptation en termes d'espace, de distanciation, de contrôle du nombre des personnes présentes simultanément sur les attractions, de désinfection et de mise en place à disposition de gel hydroalcoolique. Ainsi, afin de soutenir la profession dans cette période difficile, je vous propose de faire évoluer les tarifs de l'année 2020 en diminuant les droits de place au mètre carré des métiers forains de 50% et en maintenant les autres tarifs au même niveau qu'en 2019 et de les adapter conformément au tableau en votre possession. Le tableau qui vous est indiqué est le reflet de la diminution de 50% des tarifs publics du domaine public pour les manèges.
Eh bien, des questions sur ce rapport, monsieur Mathieu ?
Oui, merci. Ma question va... Bon, déjà en préambule, je pense que la question peut se poser de la légitimité enfin de maintenir la fête foraine dans les circonstances actuelles, surtout pour septembre, puisqu'on ne sait pas si le virus en période estivale se calme, mais on ne sait pas comment ça reprendra en septembre. Toutefois, donc ma question, elle va porter plutôt sur la baisse du tarif à la place pour les forains. La crise sanitaire fait qu'on va avoir forcément des frais supplémentaires pour la collectivité, à la fois, j'imagine, pour contrôler le nombre de personnes sur la fête foraine, mais également pour mettre à disposition du gel hydroalcoolique, pour contrôler si justement les forains eux-mêmes font l'effort de désinfecter entre chaque passage. De la même manière, j'ai un peu de mal à imaginer que dans les petits casinos où on met les pièces, chacune d'elles seront désinfectées à chaque fois que quelqu'un passera. Voilà, dans des conditions comme celle-ci, il est clair que le coût pour la collectivité sera plus élevé. J'ai donc du mal à comprendre pourquoi on va baisser le tarif pour les forains. Merci.
Alors, on baisse le tarif pour les forains tout simplement parce que c'est une population qui souffre énormément de la crise du Covid, puisque leur activité a été réduite à zéro pendant toute la période de confinement, qu'il a fallu attendre un protocole, je crois, qui a été adopté début juin, d'utilisation des manèges. Alors, il y a différentes solutions. C'est où on est sur une petite fête locale et il y a un manège isolé, auquel cas il n'y a pas de périmètre de sécurité à identifier, ou on est sur une fête foraine, auquel cas c'est, je ne sais plus quel est le nombre minimum de métiers les uns à côté des autres, qui prévoit qu'on doit avoir une enceinte fermée avec des accès sécurisés, et ce sera le cas à Épernay. Et évidemment, les forains, d'une manière générale, ont sollicité la quasi-totalité des maires de France, ont d'ailleurs fait des démarches auprès de l'AMF directement pour être soutenus, parce que c'est un vecteur d'animation pour l'ensemble des villes qui accueillent les forains, et pour être soutenus dans leur démarche. Et nous avons considéré que s'agissant d'entrepreneurs individuels, qu'il était logique, pour faciliter leur venue à Épernay cette année, de faire en sorte qu'ils puissent aussi bénéficier d'une aide sous la forme d'une réduction des tarifs forains. Certains manèges sont des manèges de grande envergure et qui ont des coûts importants. Pour autant, si effectivement ils font une année blanche, le risque c'est que demain il n'y ait plus de fêtes foraines et qu'il n'y ait plus non plus le plaisir pour beaucoup de gens de fréquenter les fêtes foraines. Donc on a trouvé normal de faire un geste en baissant de 50% ces tarifs forains, même si effectivement ça risque de se traduire pour la ville par des dépenses supplémentaires, parce qu'il va falloir évidemment participer au contrôle en amont de la fête foraine. Donc c'est ce qu'on fera, mais c'est vraiment un choix de venir en aide à une profession qui appelle au secours parce qu'ils sont en grosse difficulté aujourd'hui. Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 30, et c'est Sophie Hercher-Bousseau.
Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui.
Alors, la ville d'Épernay souhaite renouveler son inscription au dispositif du service civique volontaire, qui permet à des jeunes entre 16 et 25 ans de s'engager au service de la collectivité en renforçant la cohésion et la mixité sociale. Donc là, il s'agit d'accueillir 7 jeunes volontaires pour une durée de 7 mois dans différents services de la ville. Propose donc d'adopter le principe de l'établissement d'un agrément de service civique et de fixer l'indemnité mensuelle versée par la ville à 107,58 euros à chaque volontaire.
Merci. Y a-t-il des questions, Madame Planck?
Merci. Oui, donc nous proposons que les indemnités soient au-delà de 7,43% de l'index 244 pour avoisiner 300 euros par mois pour 28 heures de travail par semaine, dont certaines heures sont faites en soirée. Cela nous paraît opportun, entre autres pour les habits de lumière et les soirées blanches qui sont nocturnes et qui sont plus contraignantes.
Alors peut-être que Youri veut préciser, mais ce n'est pas la seule ressource qu'ils ont, puisque l'État normalement verse également une...
Oui, alors à titre indicatif, en fait, il y a une somme qui est versée par l'État à hauteur de 473 euros et qui en fait fait l'objet d'un complément donc par la ville qui ajoute l'indemnité que nous votons aujourd'hui. Donc techniquement, ça leur fait un total de 580 euros mensuels.
Merci pour cette précision. D'autres questions, Madame Perrin?
Il y a déjà le, même si l'État met 473 euros, enfin voilà, avoir une rémunération de 580 euros, on sait que c'est un emploi comme un autre, ça me paraît pas bien lourd quand même. En dehors de la rémunération, ce type de contrat, il permet aussi un soutien sur le financement de formations qualifiantes qui soient autrement vendeuses que le BAFO, le BFD, qui peuvent par ailleurs être financées par d'autres formes de partenariat entre les jeunes et une structure organisatrice d'accueil de loisirs.
Attends. Oui, j'aimerais préciser sur ce dispositif de service civique. Le service de développement durable, on accueille régulièrement, chaque année, on accueille des services civiques. Ce n'est pas du tout un emploi, et ni comme un autre. C'est une formation qui est offerte, formation, ou alors plutôt une découverte d'un métier ou d'une branche d'activité qui est offerte à des gens qui veulent s'orienter, des jeunes qui sont entre 16 et 24, 25 ans.
25.
Ce n'est pas du tout un emploi. Donc c'est une rémunération qui est normale, il faut indemniser le travail qui est effectué, mais c'est 25-24 heures par mois, par semaine, pardon, qui est faite. À côté de ça, il y a des formations. Il y a des formations qui sont aussi faites par les encadrants de la ville qui donnent quelques techniques de recherche d'emploi, d'apprentissage, de formation diverse. Ce n'est pas du tout un emploi. C'est une indemnité qui est donnée en échange d'un apprentissage. C'est pas un stage, comme on pourrait le dire, mais ça ressemble beaucoup à un stage d'apprentissage, de formation, de découverte. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont passés ici, qui ne connaissaient pas ce qu'était le développement durable, qui sont venus pour dire, tiens, c'est peut-être, et ils ont vu où ils voulaient s'orienter. Soit dans cette partie-là, ou pas du tout, en disant, non, finalement, c'est pas pour moi, ou alors oui, c'est pour moi. Donc, c'est vraiment découvrir comment fonctionne le quotidien, c'est voir quels sont les métiers qui peuvent être offerts, voir comment fonctionne un service. Alors, il y a le développement durable, il y a la commission jeune, il y a aussi, je crois, au CCAS, il y a quand même diverses, aux archives aussi, il me semble, oui, au musée.
À la culture.
Enfin bon, il y a quelques heures qui sont offertes et on découvre des métiers différents.
Merci. Oui. Attendez, Marie-Claire, non ? À Yuri.
Oui, c'était simplement pour préciser. Donc, comme disait Jonathan, en fait, hein, c'est bien une mission, pas un emploi. Et c'est pour ça que la délibération prévoit qu'ils reçoivent une indemnité. Donc, c'est pas du tout dans le cadre d'un contrat de salariat normal. Hein. C'est bien une indemnité qu'ils perçoivent. Tout à fait. Une formation.
Oui, oui, il y a des vraies formations. Monsieur. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 31, Sophie Hercher-Bousseau.
Oui, merci. Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine et en partenariat avec le photographe Benoît Laroche, notre collectivité a décidé d'organiser une exposition de photographies qui seront donc exposées sur les grilles de l'hôtel de ville. Ce sont des photos de l'intérieur de l'hôtel de ville. Je vous propose donc d'approuver le projet de convention avec Monsieur Benoît Laroche relatif à l'exposition de photographies et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer.
Merci. J'admire personnellement les photos de Benoît Laroche. Remarquables, même par temps d'orage, puisque les dernières photos dataient de l'orage de vendredi soir de la semaine dernière. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit avec le rapport 32 concernant la convention de partenariat projet d'exposition photographique.
Dans le cadre de l'atelier d'écriture Récits de vie, proposé par l'association Le Diable à quatre pattes, il a été décidé d'organiser une exposition de photographies dans les médiathèques d'Épernay. Et les photos sont prises par M. Jean-Marie Wolf dans le cadre de l'atelier. Je ne sais pas comment parler, je ne veux pas que ça fasse de bruit. Je vous propose donc d'approuver le projet de convention avec M. Jean-Marie Wolf et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit avec le rapport 33. Appel à projet continuité cyclable 2020. Jonathan Rodriguez.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter cette délibération qui nous engage à répondre à l'appel à projet de l'État sur les continuités cyclables. Donc là, c'est quelque chose de très particulier sur des infrastructures assez lourdes qui permettent de connecter le pôle d'échange multimodal, qui permettent de connecter des quartiers de vie, de logement avec des quartiers de travail ou de loisirs. Donc c'est fléché pour des investissements assez lourds, assez conséquents. C'est pour ça qu'on a identifié ici la future passerelle qui sera entre le quartier Berge de Marne et le centre-ville immédiat puisqu'on se retrouve juste derrière la gare. Donc on a vraiment le pôle d'échange multimodal. On est avec des logements, de l'activité économique, d'un côté et l'autre de la voie de chemin de fer. Donc c'est une candidature qui est proposée pour avoir une subvention qui peut monter, la somme est ambitieuse mais on y croit, jusqu'à 4 millions d'euros par l'État. Donc ça pourrait évidemment financer cette passerelle qui serait évidemment dédiée aux mobilités actives, puisque le nom dédié aujourd'hui c'est ça, donc la marche à pied et les pistes cyclables. La taille de la passerelle est étudiée pour faire cette largeur pour accueillir une piste cyclable à double sens et pouvoir descendre ensuite soit par les ascenseurs, soit par des pentes pour les vélos. Donc c'est une étape de ce qu'on imagine pour le développement du vélo à Épernay. Vous connaissez déjà les voies cyclables qui existent. Elles ne sont pas parfaites. Il faut encore améliorer le dispositif. C'est pour ça qu'on a aussi répondu à l'échelle de l'agglomération avec nos collègues de la Grande Vallée de la Marne ou des paysages de la Champagne, donc Aïe et Dormant pour faire simple, sur un schéma directeur vélo qui devrait être rendu, je pense, au printemps prochain et qui devra analyser et faire des propositions sur les grands axes cyclables qui pourraient connecter nos villages sur les trois agglomérations et aussi dans nos villes, avoir des améliorations pour la pratique du vélo. Donc ça, on a candidaté, on a eu des subventions avec cette candidature, ce schéma vélo qui est financé à 50% par l'ADEME et par l'État. On a aussi des aménagements qui pourront être financés grâce à ça, puisque la FIT qui est précisée dedans dans l'Agglomération et l'État financerait des infrastructures cyclables, si tant est qu'on ait engagé une démarche de schéma directeur vélo. Donc on l'a fait, on l'a engagé, on sera éligible, donc on peut candidater à cet appel à projet, et on pourra le faire aussi pour d'autres continuités cyclables, pour d'autres pistes cyclables qui devront émerger dans les semaines à venir, parce que la demande est de plus en plus forte. On le savait avant le résultat d'hier soir. On avait des demandes beaucoup plus fortes. Les marchands de cycles témoignaient que les gens faisaient plus de vélo, avaient envie de se déplacer en vélo plus fortement. Et il est vrai que dans une ville comme la nôtre, avec des coteaux assez pentus, le développement des vélos électriques faisait qu'on pouvait plus facilement circuler à vélo en ayant une aide pour grimper ces côtes. Donc on a déjà nous versé depuis quelques années la subvention pour les vélos électriques. On est une des seules communes, une seule ville de la région Champagne-Ardenne à le faire. Bon, il y a peu de villes le font dans notre région. Je crois qu'on est la seule. Il y a juste l'agglo de Charleville qui nous a rejoint dans cette démarche. Donc on va continuer à faire des aménagements. On a eu des stations de gonflage qui fonctionnent assez bien. Des stations de gonflage à énergie musculaire qui permettent de regonfler son vélo assez facilement et qui sont au terme de 8 dans toute la ville. Et ça a déjà été pas mal utilisé et on va continuer à en installer. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais en tout cas, cet appel à projet, on aura une réponse en septembre de cette année. Donc, on sera vite fixé sur le montant de la subvention de l'État. Si elle est 4 millions d'euros, on pourra ouvrir plusieurs bouteilles de champagne. Et puis, on pourra avoir des moyens financiers pour développer encore les pistes cyclables dans la ville.
Oui, j'ajouterais qu'on réfléchit à des pistes cyclables éphémères sur un certain nombre d'axes d'Épernay. L'idée, ce serait de tester sur une période de plus ou moins longue des pistes cyclables sur des axes structurants ou alternatifs. Quand on examine par exemple une avenue comme l'avenue Foch, il paraît difficile de mettre les pistes cyclables parce qu'il faudrait supprimer le stationnement d'un côté ou de l'autre, ce qui posait de problèmes sérieux sur des axes pénétrants comme ceci. Donc, on travaille plutôt sur des axes alternatifs et parallèles. En revanche, sur deux axes importants du centre-ville, que ce soit l'avenue Paul Chandon, d'une part, et la rue Eugène Mercier, d'autre part, on étudie la possibilité d'installer des pistes cyclables éphémères, ce qui impliquera des modifications des sens de circulation parfois ou des suppressions de stationnement, en limitant ceci toutefois, de manière à permettre des continuités cyclables et notamment d'améliorer la jonction entre l'espace qui se situe ici, le parc Roger Menu, qui est un espace de loisirs avec maisons d'association, des sports, piscines, etc., et le centre-ville. L'objectif que nous avons à terme, c'est bien de relier le sud de l'agglomération au nord de l'agglomération, allant même jusqu'aux voies vertes situées à côté du canal, et dans l'autre sens, de développer des voiries, des pistes cyclables qui pourraient nous conduire jusqu'à Plivaux ou Oiries et remonter aussi bien jusque Vinay, voire Saint-Martin-d'Ablois demain, à partir de routes ou de chemins existants, qui seraient signalés, fléchés, de manière à permettre à l'intérieur des agglomérations des circulations cyclables ou randonnées ou VTT, pour ceux qui veulent faire du VTT, dans un usage quotidien. Donc c'est un travail qui va être long. J'ai eu l'occasion également de m'entretenir il y a quelques jours avec le maire de Mardeuil, avec lequel on a envisagé aussi comment mieux connecter Mardeuil à Épernay et à Cumières, toujours dans la perspective de rejoindre les véloroutes et voies vertes, qui sont un axe qui aujourd'hui nous permet d'aller à Dormant d'un côté, à Condé-sur-Marne de l'autre, et le département a engagé des travaux pour aller jusqu'à Chalon. Donc il ne s'agit pas évidemment d'aller à Chalon tous les jours en vélo, hein, mais en tout état de cause de permettre des continuités territoriales aménagées pour encourager la pratique du vélo ou au titre du loisir, ou au titre parfois de la vie quotidienne et du travail quand on fait des distances relativement limitées, ou également des itinéraires touristiques, ce qui ne peut que favoriser l'irrigation de ces territoires par la piste cyclable. On y reviendra dans le cadre de la commission compétente en la matière, et on est au tout début d'un processus qui va nous accompagner, a fortiori si on répond de manière positive, enfin, nous répond de manière positive à l'appel à projet qu'évoquait à l'instant Jonathan. L'objectif, c'est au cours de ce mandat de développer très largement la circulation à vélo pour diversifier les modes de circulation, pour permettre aussi l'accès, par exemple, on voudrait autour d'une école notamment essayer, c'est une idée que nous avons pour ce mandat, essayer de faire en sorte qu'on identifie une école, une ou deux écoles qui pourraient être fréquentées beaucoup plus par les enfants à vélo, à condition d'y aménager des parcours sécurisés. Alors, ça ne peut pas être le cas de toutes les écoles, puisque certaines écoles sont situées sur des axes de circulation importants, mais on a des écoles un peu plus retirées pour lesquelles on pourrait encourager la pratique du vélo, avec évidemment une possibilité de stationner le vélo dans l'école pendant le temps scolaire pour permettre aux enfants d'utiliser ce moyen de transport qui est courant dans un certain nombre de pays européens et qui est encore largement sous-développé à l'échelle des Perrins. Madame Perrin.
Ben nous, on ne peut être que pour ce développement-là, mais il faut aussi penser la place du vélo, c'est aussi repenser la place de la voiture, c'est aussi repenser la place du transport en commun. C'est pas en mettant des parties de voies réservées au vélo qu'on va pouvoir, travailler sur du long terme et sur la pratique du vélo par le plus de personnes possible, quoi. C'est tout un ensemble de choses. Alors moi, j'ai regardé les projets, effectivement, c'est ambitieux. Je ne peux que être d'accord avec ça. Mais par exemple, faire Épernay Haï en vélo et passer les deux ponts, c'est juste pas possible. Moi, je fais pas ça avec mon fils quand il était un peu plus jeune. Il
faut que ça devienne possible.
Il faut que ça devienne possible. Donc, il faut aussi repenser la place de la voiture. Il faut aussi repenser la place du transport en commun.
C'est la raison pour laquelle on parle d'un schéma directeur, c'est-à-dire que toutes les opérations ne pourront pas être faites immédiatement, mais en les inscrivant dans un schéma, à chaque fois qu'on refera une rue ou un ouvrage, on s'organisera pour que l'usage du vélo soit possible. Donc, ça va s'assembler comme un puzzle avec des morceaux qui vont être faits dans le temps. L'objectif, c'est d'avoir une ligne directrice qui permette à terme de garantir un transport cyclable. L'un des problèmes que nous avons avec le pont SNCF, qui va faire d'ailleurs l'objet de travaux prochainement, c'est qu'effectivement, ce pont ne peut pas être élargi. Donc, en revanche, il sera tout à fait possible demain de passer par le pont de la passerelle, qui permettra de contourner le pont SNCF, de rejoindre ensuite les quais de Marne, de reprendre l'autre pont qui lui offre plus de possibilités, parce que la partie de trottoir est plus large que sur la partie du pont SNCF. Ce ne sera pas toujours parfait, mais en même temps, on a des ouvrages historiques qui sont comme ceci. On ne peut pas inventer ou élargir un pont de 2 mètres, ce serait trop facile. On l'aurait fait depuis longtemps. Le gabarit de ces ponts date parfois de plusieurs dizaines d'années. Il est là, il a été pensé à une époque où il n'y avait pas de pratique du vélo ou très peu. On doit faire avec, mais en tout cas, on doit pouvoir garantir un minimum de sécurité et une fréquentation correcte d'un bout à l'autre de l'agglomération, c'est l'objectif, de l'agglomération. L'agglomération au sens de l'agglomération urbaine, pas de la communauté d'agglomération, parce qu'on ne peut pas imaginer envoyer des gens à vélo jusqu'à Villeseneuve ou à Clamange. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais il faudra des années et des années pour qu'on puisse assembler tous ces bouts de voirie pour faire en sorte qu'on fasse du vélo partout. En tout cas, sur l'agglomération, la partie la plus urbanisée de l'agglomération, je pense qu'on a des progrès importants à faire, qu'on peut faire des progrès importants, parfois à moindre coût, lorsque les voies existent et qu'il suffit simplement de flécher des axes alternatifs aux grands axes de communication sur lesquels il y aura toujours des camions et des voitures, et parfois en aménageant des pistes ou des bandes cyclables sécurisées, correspondant aux normes requises en la matière, ce qui sera un grand progrès pour toutes celles et ceux qui veulent s'adonner à la pratique du vélo.
Il n'y a pas longtemps constaté qu'à Reims, ils avaient fait un gros travail sur certains grands axes, comme
d'ailleurs très critiqué par la Lamoine.
Pardon ?
Ils sont d'ailleurs très critiqués par les Rémois, ce qui est très injuste parce qu'il y a une volonté de bien faire. Mais si c'est vrai qu'on
je
bouscule.
Peux me permettre de finir,
mais on bouscule des habitudes qui dérangent. Il faut savoir que les pistes cyclables sont populaires pour les gens qui font du vélo. Pour les gens qui n'en font jamais et qui n'en feront jamais, en tout cas qui ont décidé de ne jamais en faire, c'est une source de nuisance. Donc il faut gérer cette contradiction.
Mais donc ils ont, sur des grands axes, supprimé une voie, là où il y avait plusieurs voies, pour faire les pistes cyclables qui sont assez larges. Et il y a quand même encore du danger, quoi. Enfin, je veux dire, sur des grands axes comme ça.
La difficulté d'une ville comme Épernay, et comme d'autres, qui sont des petites villes, et des villes historiques, avec un centre historique, et des anciens remparts, etc., des petites ruelles, c'est l'histoire qui nous l'axe. On a des difficultés dans les petites villes, c'est qu'on n'a pas de grands axes, on pourrait dire, quand on a trois sens uniques direction nord. On peut en supprimer une, il en reste deux pour les voitures, et voire même deux, un pour les transports en commun, un pour les voitures et un pour les vélos. Et on a une facilité de créer ça. On n'a pas le cas dans notre ville, ou très rarement. C'est-à-dire que si on met une piste cyclable qui doit être de 2,40 m, c'est réglementaire, on ne peut pas faire moins, on peut faire plus, mais on ne peut pas faire moins de 2,40 m pour avoir le double sens cyclable. Donc si on veut faire ça, c'est soit on supprime du stationnement pour les riverains, soit on supprime une voie de circulation, ou parfois on supprime carrément la circulation, parce qu'il n'y a qu'une voie qui existe, notamment en centre-ville. Donc il faut qu'on arrive à trouver des astuces, des façons de partager l'espace, parce que c'est aussi ça qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est d'apprendre à partager les espaces. Il y a des zones de rencontre, on appelle ça dans le code de la route des zones de rencontre, où on est limité à 20 km/h, où les vélos peuvent surgir dans tous les sens, et où le piéton est prioritaire sur le vélo, qui lui est prioritaire sur la voiture. Donc ça, on l'a dans le parc Roger Menu en état, par exemple. Je pense que c'est pas encore entré dans l'usage de tout le monde. Peut-être pas. Quand j'ai passé mon permis, ça n'existait pas. Donc d'autres n'ont pas connu également. Donc ça, c'est des choses à apprendre. Il y a besoin non seulement de faire des aménagements, mais aussi d'éduquer au vélo et d'apprendre comment fonctionne le vélo et les espaces partagés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en tête et ça prendra du temps. Et on aura toujours des ruptures. Il y a des endroits où on ne pourra pas faire, à part raser un quartier entier pour refaire des voies de circulation, il y a des endroits où on sera contraint et on fera qu'on partage le trottoir avec la connexion qu'il y a pour aller vers Haï. Le pont est partagé entre, sur le pont de Marne, est partagé entre le piéton et le cycliste, mais sur le pont de chemin de fer, ce n'est pas encore le cas. On a la passerelle qui va venir, mais on pourra essayer de trouver, en attendant que la passerelle émerge, des solutions pour partager l'espace, même si ce n'est pas idéal, c'est quand même de sécuriser le vélo. Et pour aller jusqu'à Haï, il y a une partie qui a été faite par le budget participatif. C'était le premier budget participatif où on a pu, il y a encore un petit passage de tassement à faire dans les jardins. On peut aller depuis la rue d'Égalité jusque derrière le collège Yvette Lindy. On arrive juste là. Là, il y a la connexion qui se fait. Donc, on arrive à Haï de cette manière-là. Ce n'est pas idéal, mais ça existe. Il faut qu'on arrive à connecter. Après, c'est parfois, on a des longueurs qui existent, mais il faut connecter. Et Franck le disait pour les écoles, mais il faut aussi, et c'est prévu dans ce qu'on va proposer, qu'il y ait des stationnements sécurisés pour les vélos, qu'on puisse venir en centre-ville, aller faire ses achats, puisque, paraît-il, les cyclistes sont meilleurs consommateurs que les automobilistes. Donc, ça, c'est une étude nationale. Donc, il faudrait qu'on puisse se garer facilement et de manière sécurisée. Quand on a un vélo électrique qui coûte 1 500, 2 000 euros, on veut le retrouver en bon état quand on revient de ces emplettes. C'est quand même mieux.
Monsieur Humbert.
Oui, merci. Juste, j'avais une question, c'est si on n'est pas retenu pour l'appel d'offres, parce que vous avez évoqué une somme de 4 millions d'euros environ, est-ce qu'il y a d'autres sources de financement qui sont à l'étude, je ne sais pas, le département, la région, ou autre type appel à projet. Juste une remarque également, dans le dossier d'appel à candidature, on apprend quand même beaucoup de choses, c'est un document qui est assez fourni, et le diagnostic sur la place du vélo est quand même assez... je pourrais dire dur quand même, ce qui est écrit dans l'appel à candidature. Une zone piétonne fragile, lecture difficile pour la pratique du vélo, offre de bus difficilement lisible. On peut que regretter ça. Par moment, je me suis dit, tiens, est-ce que ce sont les élus d'Épernay en commun qui ont écrit ou non? Mais je dis ça, mais c'est juste voilà, sur un ton léger. Mais on peut que le déplorer et on se demande même s'il suffira de 6 ans pour mettre en œuvre tous ces projets. En tout cas, sur la pratique du vélo, vous pourrez compter sur les élus d'Épernay en commun pour faire des propositions. C'est un dossier aussi intéressant parce qu'il parle des berges de Marne, et juste une remarque, mais je pense qu'on y viendra dans un autre conseil municipal. Il a écrit, par exemple, sur l'offre commerciale, c'est un tout autre sujet, qu'on doit profiter de l'hypermarché Carrefour comme un élément moteur pour dynamiser l'ensemble. Moi, ça me fait un petit peu peur quand même d'écrire ce genre de choses quand on sait que Carrefour a épargné, a connu des grèves, un projet de restructuration. D'écrire ça pour un futur quartier, je pense qu'il y a d'autres moyens d'imaginer le commerce pour un quartier. C'est un autre sujet, mais comme il est dans le dossier, je voulais quand même faire la remarque. En tout cas, sur la pratique du vélo, il y a quand même du boulot.
Oui, non, mais il y a du travail, on le sait. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est peut-être plus compliqué à Épernay que dans d'autres villes, parce qu'on a une ville qui est compacte à cause de la présence de l'activité viticole autour, qu'on est obligé de reconstruire la ville sur elle-même en permanence, et qu'effectivement, arriver à dégager de vrais axes cyclables, ce sera beaucoup plus compliqué que dans des villes où on peut s'étaler à l'infini, on est dans la plaine et où elle est plate, alors que chez nous, on a en plus de la pente, de la topographie assez désavantageuse qui oblige parfois à utiliser des chemins détournés pour arriver du point A au point B, là où dans certaines villes c'est tout droit et c'est plat, chez nous ça monte, donc il va falloir qu'on zigzague un peu. Mais il y a une vraie volonté d'agir en la matière. L'État met en place des moyens importants et nouveaux, et je crois que dans le cadre des travaux de la Convention citoyenne, il est prévu un certain nombre d'évolutions vers les modes de transport doux, et ça ne peut que renforcer les moyens financiers mis à l'appui de tout cela. La région, les régions, les départements investissent aussi beaucoup dans le sujet parce que ça devient un mode de... et c'est l'essor du vélo assistance électrique qui le permet aussi. C'est-à-dire qu'avant, il était difficile d'envisager des parcours de 5 à 10 km pour aller travailler à vélo parce qu'on arrivait tout dégoulinant chez son lieu de travail. Aujourd'hui, avec le vélo assistance électrique, l'effort est moindre et permet un usage quotidien à des gens qui n'auraient jamais pu faire cet effort quotidien avec un vélo classique. Donc, ça ouvre de nouveaux marchés, ça ouvre de nouvelles perspectives, et on se doit dans une ville, mais c'est le cas dans la région ou dans les départements, de suivre les évolutions de la société et de faciliter les évolutions de la société. Quand on a l'occasion d'aller en Belgique, d'aller en Hollande, d'aller en Allemagne ou même à Strasbourg, on constate que le réseau cyclable il est infiniment plus développé. Mais ça impliquera des investissements lourds aussi pour conserver les vélos, les garder, les surveiller et faire en sorte que ça devienne une partie du transport quotidien des gens et pas seulement le vélo qu'on prend le dimanche matin avec ses enfants, on l'a tous fait. Si demain on peut effectivement prendre son vélo tous les jours à la place de la voiture, on aura marqué des points importants.
Alors oui, s'il n'y a pas de financement ici, on ira en chercher ailleurs. Bon, le vice-président de la région, il sera sollicité. Le département, monsieur le conseil départemental, le vice-président du conseil, évidemment, mais aussi la FIT qui, je le disais tout à l'heure, il nous faut un schéma directeur pour bénéficier de subventions. Ce qu'on n'avait pas avant, et on lui disait, faites un schéma directeur, vous aurez les subventions. C'est ce qu'on a fait, et on pourra avoir les subventions. Alors, je ne sais pas de quelle nature, de quel montant elles seront, mais évidemment, elles seront visées ici, et puis après, on imaginera aussi d'autres financements, pourquoi pas privés, pour, au titre des certificats d'économie d'énergie, puisqu'aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie que payent les grands pollueurs, hein, EDF, Total, vraiment, ceux qui sont censés les racheter, permettent de financer de la mobilité. Donc ça, c'est assez nouveau. Je ne connais pas précisément le dispositif, mais ça existe. Donc ça, on ira aussi le solliciter. Parfois, c'est cumulable avec des subventions. Donc on ne va pas s'en priver. Donc on le fera. Ensuite, pour ce qui est de l'appréciation du piéton, du cycle, etc., c'est une analyse qui est plutôt faite autour de la gare. Ce n'est pas toute la ville qui est quand même dessinée. Après, les discontinuités, on en a toujours, on n'a jamais caché qu'il y a des difficultés, et puis qu'il y a des améliorations à faire. C'est vrai qu'on hérite d'une situation où, comme toute ville de France, on a un héritage du routier, de la voiture, qui est assez majoritaire, on le voit bien. Donc ça, on le réaménage. On a évidemment, dans ce qu'on a proposé, suppression de places de stationnement, très forte, suppression de voies de circulation. On réduit l'espace de la voiture quand on va aménager des pistes cyclables. Alors évidemment, il y aura une zone de latence où on dira, mais il n'y a pas encore de vélo dessus. Oui, mais s'il n'y a pas de piste, il n'y aura jamais de vélo dessus. Donc ça, évidemment, on l'a remarqué dans les villes qui l'ont lancé, il y a toujours une zone de les cyclistes doivent se dire, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, voir comment je peux me déplacer, aller à mon travail en passant par là ou par là. Donc il y a un temps où on devra convaincre et habituer, et le test sert à ça, pour pouvoir adapter si besoin, pas faire des investissements qui sont forts, parce que ça coûte de créer ces pistes cyclables, même le marquage routier, même des petits aménagements, ça coûte assez fort, assez cher. Donc il faut qu'on puisse tester de manière réelle, c'est-à-dire on ne va pas le faire qu'au mois d'août, parce que personne ne va se déplacer pendant ce temps-là, ou beaucoup moins. On va le faire sur plusieurs mois, on va essayer de prendre été et automne et pourquoi pas hiver, pour voir comment ça fonctionne avec ces différentes caractéristiques.
Merci, je vous propose de voter ce rapport, sachant que la commission évidemment aura travaillé sur ces sujets. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 34, Christine Mazzi. Attribution de subvention.
Il a été rajouté après le compte rendu des décisions, ce sera 35.
Suivant.
Vous avez eu un envoi complémentaire. Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes énumérées dans le rapport en votre possession. Il s'agit, en ce qui concerne le rugby et le foot, en fait, de subventions qui sont données au club de façon à compenser la suppression des postes attribué auparavant. Donc chaque année, nous versons une subvention pour compenser cette disparition de postes.
Oui, juste une petite précision. Oui. En l'occurrence, on ne peut pas vraiment parler de suppression de postes. En fait, ce sont des éducateurs.
Des éducateurs de la ville qui ne sont plus mis à disposition.
Voilà, ce sont des éducateurs qui, par suite de départ à la retraite ou de ailleurs, ont quitté leur poste et le club, en fait, les clubs nous avaient sollicité pour transformer la mise à disposition en une équivalence de subvention, ce qui permet en plus à la ville d'avoir une subvention annuelle, mais d'éviter d'avoir forcément les charges qui vont avec et l'augmentation annuelle des charges.
Tout le monde est gagnant. C'est le club qui salarie à la place. Fait. Des questions ?
Merci. J'avais juste une remarque sur la subvention sur pour le rallye Vin de Champagne, puisqu'on parle d'écologie, transition écologique. Subventionner du coup un événement par définition polluant, ça peut paraître paradoxal. Alors, il est populaire cet événement, moi-même j'y assiste, c'est pas là le problème, mais dans l'avenir, il faudra quand même se poser la question de la subvention. Moi je préférais par exemple, Épernay peut être novateur en la matière si on organise un rallye de voitures électriques ou non pollue, voilà, quelque chose comme ça, d'un peu plus novateur, d'un peu plus respect de l'environnement. Que voilà, vous avez parlé d'une ville qui doit se rapprocher de la nature, d'être plus respectueux de l'environnement. Ça peut paraître symbolique, puisque si on prend la subvention, le montant de la subvention au budget de la ville, c'est pas non plus une grosse somme, mais symboliquement, juste mettre en lien les paroles et les actes. Et je pense que sur ce sujet-là, il faudra revoir, je pense, cette subvention à l'avenir.
Alors, le sport automobile est très populaire, vous le savez, vous faites partie des amateurs, j'en fais partie également, et ça séduit évidemment bon nombre de Français, mais également d'étrangers qui viennent à l'occasion de ce rallye. D'une manière générale, le sport automobile est engagé dans cette transition énergétique, puisque on le voit au niveau de la Formule 1, où de plus en plus une partie de la puissance des véhicules est liée à la récupération de gaz d'échappement, à de l'électrification, à l'hybridation des moteurs. C'est peut-être un peu moins vrai pour l'instant dans la rallye, mais ça vient sérieusement. Et effectivement, on peut pas non plus sacrifier une discipline aussi populaire que celle-ci, d'autant plus que le soutien qu'on leur apporte est assez modeste et que l'essentiel des financements, ils vont les chercher par eux-mêmes avec des partenaires. Donc, l'idée, c'est de maintenir ce financement. Je crains, et j'aimerais bien avoir un jour un rallye de véhicules électriques, mais je crains pour l'instant qu'on n'ait pas beaucoup d'inscrits, parce que, évidemment, ces véhicules électriques, à part la formule, comment on l'appelle, la formule E1, qui est la formule E, qui est la formule électrique, mais qui ne se pratique que sur des circuits en ville et qui n'est pas accessible à Épernay, pour l'instant, il y aurait très peu de véhicules. Pour autant, je suis persuadé que ça va très vite avancer en la matière. D'abord, parce que les normes des constructeurs vont évoluer, qui vont petit à petit imposer de plus en plus de véhicules hybrides puis électriques dans le rallye. Ça perdra du charme, certains diront, pour le bruit. D'autres sont au contraire soulagés par l'absence de bruit. Mais je pense qu'il faut laisser le temps au rallye de s'adapter en la matière et ne pas couper les ailes de cette activité qui est importante.
Mon propos n'était pas du tout de dire il faut sacrifier le...
Non, j'ai bien compris.
C'est aussi une activité où il y a de l'emploi, où il y a de l'activité économique, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que pour l'avenir, alors c'est quelque chose qui peut être fait progressivement, on va pas... ça fait des années, enfin quelques années que le rallye existe, donc on ne va pas du jour au lendemain leur dire, bah, au fait, finalement, plus de subventions. Mais je pense qu'il faut quand même aller dans cette démarche-là, quitte à organiser un événement populaire, mais mettre la même somme d'argent pour un événement plus populaire, moins polluant. Enfin voilà, c'est l'objet. Je pense que pour les années à venir, il faut tendre vers ça.
Benoît.
Oui, il y a eu une étude il y a 2 ans ou 3 ans réalisée par le Rallye du Touquet, qui est dans on va dire assez comparable à la nôtre. Et en l'occurrence, les émissions. Provenant des véhicules de course représentait 15% des émissions totales, puisqu'en fait, la majeure partie de la pollution, elle est émise par les spectateurs qui se déplacent d'une spéciale à l'autre. Donc, ce qui veut dire que c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Hein. Je n'ai pas dit cela. Simplement, l'impact, si vous voulez, sera pas aussi important que ce qu'on pourrait l'imaginer, sauf à finalement, la population, elle aussi, embraye sur, si vous me permettez le jeu de mots, sur tout ce qui est hybride ou électrique. Par ailleurs, pour connaître, c'est quand même un rallye qui est aujourd'hui bien installé à Épernay. Si vous partez du niveau régional, quand ça a commencé, on avait des véhicules, et là encore, ce n'est pas pour les dédouaner, mais c'est dire que 20 ans, il y a eu des efforts considérables. C'est quand vous mettez en perspective le parc des voitures de course d'il y a 20 ans, quand le rallye, plus de 20 ans, quand le rallye a débuté, et aujourd'hui, sur les émissions qui proviennent des véhicules de course, on est sur des résultats qui sont sans commune mesure les uns par rapport aux autres. Donc, il y a une filière qui fait, qui améliore, mais pour autant, il y a effectivement besoin de. Il y a besoin de réaliser encore, de consentir beaucoup de progrès. Et dernier point, accueillir un événement, vous évoquiez rallye de type électrique, ce qui fait le succès d'un rallye, ce qui fait le succès du rallye Épernay Vins de Champagne, c'est qu'il est inscrit à un calendrier national et que finalement, comme il est bien noté, à Épernay, les pilotes marquent beaucoup de points, notamment grâce à la spéciale nocturne. Si on voulait demain s'inscrire dans un événement comparable, mais avec une dimension électrique, il faudrait déjà que la Fédération française de sport automobile veuille promouvoir ce type de compétition, ce qui aujourd'hui n'est pas possible pour des raisons qui tiennent certainement au niveau progrès technique des véhicules. Pour autant, Michel Perrin, qui était parnassien, suit ça de très près, et nous disait, on en parlait il y a quelques temps, que les constructeurs de plus en plus développent aussi des systèmes à hydrogène pour justement essayer de retrouver un impact moindre sur notre environnement.
Merci. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment, mais c'est vrai que le sport automobile est un facteur clé d'innovation et on peut penser que les innovations, compte tenu des contraintes de pollution qui vont être de plus en plus fortes, orienteront de plus en plus le choix des bureaux de recherche et d'innovation vers des modèles, y compris sportifs, mais plus écologiques. C'est évidemment une excellente chose. Sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Il nous reste donc le compte-rendu de décision prise par le maire par délibération du conseil municipal. Par délégation du conseil municipal, article L2122-22, rapport 35. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, monsieur Mathieu.
Merci. Ma question ne va pas porter sur le fond, puisque finalement, c'est des avenants au contrat qui ont déjà été réalisés auparavant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai simplement profité justement de ce compte rendu pour regarder un peu d'où provenaient les entreprises, puisqu'on parlait tout à l'heure de développer et de venir en aide aux commerces et aux artisans locaux. J'ai regardé un peu d'où venaient les entreprises qui sont donc dans ce compte rendu. Et donc, à part la neuvième, qui est stipulé dans le compte-rendu, qui est sur le bassin donc d'Épernay. Toutes les autres sont soit de Reims, soit de Paris. J'en vois une qui est dans le 37, une dans le 10. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais une seule serait à Pierry, donc sur le bassin d'Épernay. C'est un petit peu malheureux. Il aurait été préférable que ce soit les entreprises du bassin d'Épernay qui puissent profiter de ces marchés. Voilà.
Alors, j'ai la réponse à votre question, puisqu'il s'agit pour l'essentiel des travaux du musée, et que c'est des travaux. Le musée est un monument historique. On est tenu de faire appel à des entreprises qui ont la référence monument historique. Il y a dans l'équipe d'architectes du musée, il y a un architecte en chef des monuments historiques qui fait partie de l'équipe. C'est obligatoire, ça faisait partie du jury de concours. Et l'obligation, quand on a affaire à un élément du patrimoine national, comme l'est le château Perrier, c'est évidemment de ne faire appel à des entreprises qui ont, s'agissant du traitement du bâtiment, la référence monument historique. Et il y en a finalement très peu dans notre région, très peu dans le département, ce qui fait qu'effectivement, c'est pour le coup un avantage pour cette catégorie d'entreprises qui se trouvent souvent écartées des marchés traditionnels parce que les entreprises locales sont évidemment aussi compétitives, voire plus compétitives qu'elles, mais lorsqu'il s'agit de décors, de parquets à refaire, qui sont refaits en laboratoire ou en atelier à Paris notamment, ben on est contraint par les textes de faire appel à ces entreprises. Et il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a, enfin, il y en a de moins en moins peut-être, en tout cas elles sont de plus en plus spécialisées, et malheureusement on n'en trouve pas partout en province, de temps en temps on en a, mais là, la vision que vous avez du sujet, elle est juste, mais elle est simplement liée au fait qu'on est sur le château Perrier et que, dans le cahier des charges, la contrainte, c'était de faire appel à des entreprises labellisées monuments historiques.
J'entends bien. Du coup, je vais attirer votre attention sur autre chose, parce que finalement, point 8 et point 11, il ne s'agit pas forcément du château Perrier, il s'agit finalement de géomètres, hein, pour des relevés topographiques. Le premier est de Reims et le second de Gennevilliers dans le 92. Je pense qu'on a suffisamment de géomètres dans le secteur.
Alors, la difficulté qu'on a avec les géomètres, c'est leur disponibilité. C'est que très souvent, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont surchargés de travail et que donc, ou vous attendez 3 mois, 6 mois de plus pour faire votre relevé topo et auquel cas vous n'avancez pas dans vos marchés, ou vous allez chercher plus loin, ce qui a dû être le cas. Parce qu'on travaille avec les géomètres, les Pernets, évidemment, on les connaît très bien, ils travaillent beaucoup avec nous, mais quand on arrive à certains moments où ils peuvent être occupés par d'autres chantiers, ben on est obligé d'attendre, et à un moment, on ne peut plus attendre, sinon on décale des opérations dans le temps. Mais à chaque fois, alors pour le coup, on travaille beaucoup avec les cabinets géomètres sparnassiens, et d'une manière générale, je crois pouvoir dire que, mais on vous fera d'ailleurs un petit rapport, parce que je pense que ce sera utile, que l'immense majorité des investissements qu'on fait profitent aux entreprises régionales. J'inclus les entreprises locales. Marnay reste des locaux, qu'on le veuille ou non, mais on fait en sorte de travailler énormément avec eux, d'abord parce que sur tous les marchés de travaux publics, ils sont très performants. Il n'y a que quand on arrive sur des spécificités comme un monument historique ou comme des études parfois très pointues sur lesquelles le savoir-faire n'existe pas, ou à l'échelle départementale ou régionale, qu'on va chercher des bureaux ailleurs. Et je crois d'ailleurs que l'AMF défend actuellement une position qui consisterait aussi à assouplir les règles de marché public pour nous permettre de faire travailler davantage les entreprises locales, parce qu'à un moment où on est appelé à participer à la relance de l'activité, il faudrait qu'on puisse effectivement flécher plus facilement des marchés locaux. C'est déjà l'immense majorité de nos marchés, mais parfois c'est contraignant parce que la règle applicable de manière la plus stricte nous l'interdit, alors même que c'est le bon sens même qui commande de faire appel à une entreprise qui se situe à proximité. Merci. Il n'y a plus d'autres interventions. Le rapport du Conseil est terminé. On n'a pas prévu de conseil encore pendant les vacances, pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas prévu. Vous pouvez donc partir en vacances. Je vous souhaite une période estivale agréable. Temps d'oublier les temps de confinement que nous avons subis. J'espère que vous profiterez pleinement du non seulement du soleil de Champagne, mais du soleil de la destination où vous irez. Merci à tous et à très bientôt.